ça, c'est la grande question. À quoi sert la philosophie?
Parce qu'on ne pourra jamais trop philosopher, je suis ravie d'accueillir cette semaine la philosophe Olivia Gazalet.
Et la fascination, c'est ça que je veux faire. Vivre, c'est s'interroger. Si tu arrêtes de te questionner, c'est que tu meurs. Bah, c'est normal qu'il m'arrive ça, mais je suis gémeaux. Et toi, ah bah, t'es taureau, cherche pas. Du jour où j'ai commencé à ne plus croire en Dieu, j'ai commencé à me ronger les ongles, à faire anorexie boulimie. J'étais paumée parce que j'avais plus mes certitudes.
Je t'aime à la philo, le mythe de la virilité ou encore le paradoxe du rire, Olivia Gazalet réussit à nous faire appliquer la philosophie de manière concrète dans nos vies.
Bah dis donc, elle t'a bien nourri, mamie. On dirait que vous êtes deux dans ton jean. Oh, ça va, un peu d'humour.
Y a-t-il une limite au rire?
Jusqu'où peut-on aller par humour? Le malheur peut arriver à n'importe quel moment. Elle avait jamais eu de problème de santé. Et tout à coup, elle a un cancer. Je me suis pris la claque de ma vie. Le père de mes filles m'a vie quittée pour une autre. Pourquoi j'ai échoué? Au fond, qu'est-ce que c'est que l'amour? Je devrais pas dire ça en tant que philosophe, hein, mais bon.
Je suis humaine, spoiler!
Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Olivia Gazalet.
Bonjour Olivia.
Bonjour Louise.
Bienvenue sur InPower.
Je suis très, très contente d'être là.
Je suis ravie de te recevoir. Tu sais que j'ai mentionné dans ma dernière vidéo YouTube, je sais même plus pourquoi, hein, je faisais un bilan sur 2023, on parlait de 2024 avec ma sœur, et j'ai dit que j'allais recevoir Olivia Gazalet. Et j'ai eu des commentaires sur YouTube genre « Oh, Olivia Gazalet, cœur, cœur, cœur !»
Oh,
donc voilà,
c'est sympa.
Tu es très attendue sur cette chaîne.
Oui, je suis ravie.
Voilà.
Je suis ravie.
Donc, on va parler de rien que moins que l'amour, le rire, potentiellement la masculinité et le féminisme, parce que ce sont des sujets que tu as merveilleusement traités dans tes livres.
Merci.
Mais la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
Ah ben tu fais bien de dire la façon dont ils le souhaitent.
Ouais.
Parce que moi, on me range en général dans la catégorie philosophe française. Et je dois dire que je me reconnais pas du tout dans cette définition, ni dans philosophe, ni dans française. Alors, je t'explique pourquoi. Française, oui, j'ai un passeport français, j'habite en France, mais je suis née à Tokyo, d'une mère franco-suisse et d'un père égypto-libanais, dont toute la famille a émigré aux États-Unis. Donc, toute ma famille paternelle habite les États-Unis. Donc, je me sens, en fait, j'ai jamais vraiment ressenti de sentiments patriotiques, ni même nationalistes. J'aime pas les frontières d'une manière générale, ni les hiérarchies, mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc, française, oui, mais.
Pas que.
Et, pas que, voilà. Un peu métèque quand même. Fruit de l'immigration, du côté de mon père en tout cas, et philosophe. Alors là, philosophe, je trouve que pour moi, ça n'est pas une profession. C'est un état d'esprit, c'est une posture. Par exemple, toi, je te trouve philosophe, au sens où être philosophe, la démarche, la quête, c'est un état d'esprit de curiosité, d'étonnement, s'étonner que les choses soient ce qu'elles sont et comme elles sont. Essayer d'aller au-delà de l'apparence, chercher des clés de compréhension, tout ça. Donc en fait, toi tu le fais tout autant que moi. Et moi, si je dois définir ma profession, c'est en fait j'enseigne l'art de philosopher. Donc avec des étudiants, avec des non-étudiants, je donne des conférences. Et puis depuis 15 ans, j'écris des livres. Voilà.
J'aime bien cette précision.
Voilà. Oui. Alors, et puis, dernière précision aussi, peut-être, quand on entend philosophe, moi, j'ai une façon d'envisager la philosophie de manière décloisonnée. Comme je te disais, j'aime pas les frontières. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je prends un sujet, par exemple, l'amour, ou le féminin, ou le masculin, ou le rire, plus dernièrement. Ce qui m'intéresse, c'est de le questionner sous différents angles. Donc historique, anthropologique, sociologique, psychologique, voire biologique, artistique. Donc en fait, de faire le tour d'une question. Donc en fait, ça déborde le champ de la philosophie pure, à moins qu'on comprenne la philosophie, au contraire, comme une manière d'englober tous les savoirs. Alors là, je me reconnais plus.
Comment est-ce que tu considérais la philosophie avant de devenir philosophe? Et comment est-ce que tu la considères maintenant?
Alors, quelle bonne question. Comment je considérais la philosophie? Alors, je vais te faire un aveu. Je me suis pas mal ennuyée pendant mes études de philosophie. La vérité.
Ah ouais?
Ouais. Alors, j'étais passée par les prépas, Hippocagne et Cagne, et là, il y avait beaucoup de disciplines, beaucoup de matières, donc là, j'étais passionnée. Et ensuite, après, quand je n'ai fait plus que de la philo, je trouvais que c'était souvent un peu aride, souvent inutilement abscon. J'avais des profs à la fac qui se souciaient absolument pas d'être compris, et ça, je trouvais ça révoltant. de pouvoir parler 2 heures à des gens sans se soucier une seconde de savoir s'ils avaient été compris. Souvent, je ne comprenais rien d'ailleurs. Et j'ai fait toute ma culture philosophique en autodidacte alors que j'étais à la fac. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris pratiquement, c'est par mes propres lectures, mes propres questionnements. J'aurais rêvé, mais vraiment rêvé, de vivre à l'époque, de faire mes études à l'époque où il y avait Internet, parce que ça m'aurait fait gagner un temps fou, parce que moi à l'époque il fallait que j'aille à la bibliothèque, que j'emprunte des bouquins que je trouvais pas, je savais pas très bien où aller chercher. Bref, la philosophie me passionnait en tant que quête, mais elle me décevait beaucoup en tant qu'apprentissage et en tant que savoir. Et je me disais, si un jour j'enseigne la philo, parce que je disais bien si un jour, parce que au départ je n'avais pas du tout décidé que j'allais enseigner la philo, je me disais il doit y avoir un moyen de dire la même chose avec des mots plus simples pour que tout le monde le comprenne. Et je ne vois pas l'intérêt, en fait, d'écrire des livres qui ne sont compris que par 100 personnes ou 200. Voilà, moi, j'ai envie de m'adresser au plus grand nombre. Donc, j'ai une obsession, c'est la clarté, c'est la pédagogie. Donc, voilà mon rapport à la philo.
Quelles difficultés t'as rencontrées dans ce cheminement d'autodidacte ? Parce que autant certains professeurs sont en effet dans une forme de suffisance, voilà, peut-être qu'ils se complaisent dans cet intellectualisme qui les réconforte. Mais pour avoir lu certains philosophes, je trouve ça parfois très compliqué de les comprendre, justement sans explication d'un tiers. Y a vraiment certains philosophes, c'est Yankelevitch, moi que j'avais un peu lu, et heureusement que c'est à l'époque où j'avais décidé de prendre des cours en auditeur libre, et je trouvais ça très précieux d'avoir en effet l'analyse de quelqu'un qui l'avait travaillé, retravaillé. Donc comment est-ce que toi tu as fait pour réussir finalement à acquérir quand même ce savoir et cette compréhension que parfois la simple lecture ne suffit pas?
Alors j'avais quand même les cours à la fac, ouais. Mais les cours à la fac m'embrouillaient plutôt qu'autre chose. Et en fait, ce que j'ai fait pour essayer de comprendre les auteurs un peu compliqués, c'est qu'il faut croiser les sources. En fait, il faut croiser les interprétations, essayer de tomber sur les bonnes. Et puis cheminer en et puis ça demande un peu de temps, de maturité et d'obstination, la philosophie, parce que si on peut pas non plus lâcher à la première difficulté. Mais je crois que la première fois, la vraie révélation que j'ai eue en philosophie, c'est avec Simone de Beauvoir, quand j'ai découvert le deuxième sexe, que je regrette d'avoir découvert si tardivement dans ma vie d'ailleurs, parce que c'est la première fois, vraiment c'est le premier livre que j'ai lu de la première à la dernière ligne en comprenant tout. Et ça a été une lumière, parce que le souci de la philosophie, c'est que souvent, enfin comme c'est enseigné à la fac, telle qu'elle est enseignée à la fac, c'est parfois très désincarné et tu vois pas forcément le lien avec des choses que tu as vécues ou avec des sujets qui te préoccupent ou qui t'obsèdent ou qui te posent problème dans ta vie. En fait, il y a ce décalage entre ce dont on a besoin, ce dont on a soif, ce dont on a faim à 15 ans, 16 ans, quand on se pose toutes ces questions, 17, 18, et puis ce que la philosophie peut nous apporter si elle n'est pas un peu dépoussiérée, éclairée, voilà. Et Simone de Beauvoir, tout à coup, c'est la révélation, parce que... Et alors je me suis dit, est-ce que c'est parce que c'est une femme qu'elle écrit simplement? Je ne sais pas. Mais ça n'empêche que ce qu'elle dit est extrêmement profond, extrêmement abouti. C'est basé sur une recherche extrêmement fine, méticuleuse. Elle est méticuleuse dans ses dansées. Mais c'est à la portée de tout le monde. Enfin, si tu t'en donnes les moyens, tu peux lire le deuxième sexe, même si c'est énorme. Et voilà, tu vas le comprendre. Donc, c'est cette lumière, moi, qui m'a fascinée. Et ça a même été ma révélation philosophique, même avant, enfin, en même temps que ma révélation féministe, je dirais. Ça s'est fait en même temps.
À quel âge tu l'as lu ?
Trop tard. Quand je dis trop tard, oui, parce que j'étais déjà bien intoxiquée par un tas de représentations. Oh, j'ai dû le lire vers 22, 23, c'est trop tard.
Donc à la fin de tes études.
Ouais, à peu près. Ouais.
Mais t'avais quand même déjà...
Parce qu'elle n'est jamais enseignée, elle.
Ouais.
On t'en parle jamais. Enfin, non. À l'époque, je sais pas, mais à l'époque, on n'en parlait pas.
Écoute, je me demande si elle n'est pas plus enseignée en littérature qu'en philosophie.
Oui, c'est bien possible.
Elle est plus rangée dans cette case-là.
C'est bien possible.
Mais donc, c'est marrant que ce soit... que ta révélation, entre guillemets, ait eu lieu à 23 ans, alors que finalement, c'est à 18 que tu décides que tu veux faire de la philosophie. Qu'est-ce qui t'avait convaincu? Parce que je trouve ça dur, en fait. Je trouve ça dur. Enfin, par exemple, je crois que je l'ai déjà dit sur notre podcast. Moi, je me rends compte que c'est, au final, la matière que j'aime le plus dans toutes les matières à l'école.
Ah oui, d'accord. Mais en fait, tu vois, je t'ai dit que t'étais philosophe.
Mais bon, comme tu dis, c'est vrai que c'est, on l'est un peu tous au fond. Mais en fait, à 18 ans, je me suis pas posé la question parce que, en l'occurrence, j'avais pas un professeur qui me passionnait. J'ai juste fait 2 heures de philo en terminale. Et donc, en fait, c'est vraiment, enfin, ça fait 2 ans, quoi, que je découvre. Mais en fait, j'adore la philo et j'aurais aimé faire des études de philo. Enfin, il est jamais trop tard, hein. Mais comment toi, tu réalises à 18 ans que c'est ce que tu veux faire et ce à quoi tu veux te consacrer?
Ben, en réalité, j'ai pas vraiment décidé ça à 17 ans. Parce que j'étais... Moi, j'avais une autre grande attirance, c'était faire du théâtre. Ce que j'ai fait en parallèle avec mes études. Et en fait, j'aimais tout ce qui me permettait d'interroger des nouvelles façons d'agir, de voir le monde, ce que fait aussi le théâtre, parce que tu incarnes différents personnages. Donc. Et en fait, moi, la révélation de... J'ai un parcours un peu atypique, hein, même très, très
atypique. Mais tu sais quoi, revenons au début de ton parcours, parce que ça m'intéresse, de savoir comment est-ce qu'on grandit à Tokyo dans un monde qui n'était pas encore celui d'aujourd'hui.
Alors, tu vois, pas
aussi mondialisé, quoi.
Ouais, je suis partie de Tokyo, j'étais très jeune.
Hein. D'accord, donc t'as pas de souvenirs?
Non, ben, en fait, j'ai des faux souvenirs. C'est-à-dire que je pense que j'avais 3 ans quand j'ai... Enfin, j'ai quitté Tokyo quand j'avais 3 ans, donc je pense que t'as pas vraiment de... Mais en revanche, comme après, j'ai grandi avec... J'avais plein de jouets, de joujoux japonais. Il y avait plein de choses qui venaient du Japon à la maison. Ma mère faisait des bouquets japonais. Il y avait une culture d'amour. Ouais, imprégné. Il y avait quelques mots de japonais. Enfin, et moi j'ai un prénom. Je m'appelle Michiko. Enfin, je m'appelle Olivia Michiko. Donc on m'appelait Michiko à la maison. Enfin, donc le Japon était là sans être là, au même titre que l'Égypte. C'est-à-dire que quand on a étudié Champollion et les hiéroglyphes, c'était, on parlait de moi. Quand on étudie le Mont Fuji et les geishas, c'était moi. Puis ensuite, après, j'ai vécu en Suisse, le chocolat et c'était moi. Donc en fait, voilà. Et les États-Unis, après, j'étais toute fière de dire que j'avais de la famille qui habitait à New York parce que c'était super stylé à l'époque, ça l'est moins maintenant. Pour te dire la vraie... Enfin, mon itinéraire, il a été assez particulier, je dirais. Quand tu me demandes comment j'ai décidé de faire de la philo, en fait, c'est pas en étant étudiante en philo. Bizarrement, j'ai eu la révélation que je voulais enseigner la philo en faisant une expérience qui a été l'expérience la plus importante de ma vie, à part mes enfants. Qui était que quand j'ai fait du théâtre, un jour, par un hasard, quelqu'un m'a proposé d'animer un atelier de théâtre dans une prison pour femmes, la maison d'arrêt des femmes de Fresnes. Et je l'ai fait. On faisait des impros, on faisait toutes sortes d'exercices. Et en définitive, je me suis rendu compte, en échangeant avec ces femmes, qu'on faisait de la philosophie. Et que ça devenait un petit peu un cours de philo. Et que elles, en leur faisant, par exemple, un jour, j'ai fait faire une impro sur le thème de la liberté. Je me dis, mais c'est quoi la liberté? Puis alors là, je commence à partir sur la liberté. C'est la liberté intérieure. Même si t'es enfermé entre 4 murs, tu peux trouver la liberté en toi. Et que je leur parle des stoïciens, et que je leur parle des épicuriens. La sagesse est au fond de toi. Et la fascination, et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est que je veux apporter des petites lumières qui font bouger les lignes dans l'esprit des gens. Mais si ça passe par un livre, c'est très bien. Si ça passe pas par un livre, mais juste par un échange, c'est aussi de la philosophie. Et moi, j'ai mis assez peu de livres de philosophie pure dans les mains de mes filles. En revanche, je les ai élevées sans arrêt en essayant de les faire philosopher sur ce qui leur arrivait. Et je crois que ça a porté ses fruits dans certaines circonstances un peu pénibles.
Justement, c'est une vraie question, tu vois. Je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui, j'ai l'impression la philosophie, à le vent en poupe, ou en tout cas, gagne en lettres de noblesse. Mais c'est vrai que pendant longtemps, il y a eu presque cette peur par rapport à la philosophie qui paraissait réservée à une élite, qui paraissait un peu inaccessible. Ouais. Comment tu dirais, est-ce qu'on peut utiliser la philosophie au quotidien? Comment est-ce qu'on peut en faire bon usage?
Ça, c'est la grande question. À quoi sert la philosophie? Ce que je me demande parfois. La philosophie, en fait, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est beaucoup plus un état d'esprit qu'un savoir. C'est d'ailleurs, ça veut dire philosophie, philia et sophia, c'est-à-dire l'amour, la quête d'un certain savoir. Et en réalité, je pense qu'on devient philosophe et qu'on, enfin, on a besoin. Ta question, en fait, c'est pourquoi on a tant besoin de philosophie aujourd'hui. Je pense déjà parce que les problématiques auxquelles on fait face sont de plus en plus complexes et on ne sait pas comment les appréhender parce que on est devant des grandes inconnues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les peurs et les anxiétés contemporaines, c'est des peurs d'effondrement. C'est l'effondrement, l'effondrement de la civilisation, c'est la catastrophe climatique, c'est l'effondrement du système bancaire, c'est les pandémies mondiales. En fait, c'est des peurs qui sont métaphysiques et devant lesquelles on est complètement désemparé parce qu'on n'a pas la solution. Et, ou alors quand on l'a, on est en pleine dissonance cognitive parce qu'on sait ce qu'il faudrait faire pour le climat, mais on le fait pas, donc ça rend fou. Et donc en fait, les gens, ils sont complètement désemparés par justement le décalage qu'il y a entre des véritables problèmes et puis une façon de les traiter qui peut être très très mal interprétée parce qu'elle est confuse. Donc il y a un manque de lisibilité, que ce soit dans les discours politiques qui sont sans arrêt tantôt à gauche, à droite, on respecte pas le programme pour lequel on a été élu, etc. Pas seulement en France, hein, mais aussi en France. Donc les gens sont un peu désemparés, ils cherchent des clés et ils les cherchent en eux-mêmes. Parce qu'il y a, je pense qu'il y a une défiance vis-à-vis du discours politique, déjà, par exemple, et des discours en général. Donc une volonté de trouver les choses en soi-même. Et puis on est saturé d'infos et d'infox. Et ça, je pense que c'est très difficile d'essayer de faire la part des choses. Et là encore, il n'y a que l'attitude philosophique, c'est-à-dire l'attitude qui consiste à dire, voilà, j'ai devant moi différents discours qui se contredisent. Quels sont les arguments les plus pertinents en faveur de cette thèse et quels sont les arguments les plus pertinents en faveur de l'autre thèse? Et la philosophie, ça consiste à essayer de confronter ces argumentations antinomiques pour voir ce qu'il en ressort. Mais ça demande un effort, ça demande aussi, je pense, une certaine maturité. Ça demande pas nécessairement un bagage, mais par exemple, pour moi, l'anti-philosophie, ce sont les réseaux sociaux. Non pas que je critique les réseaux sociaux dans leur globalité, pas du tout, mais tu sais aussi bien que moi que quand tu es sur Twitter, finalement, tu reçois que des infos qui vont dans le sens de ce que tu penses.
Les voilà. Bulles de filtre.
Voilà,
Tu reçois beaucoup de négativité et de critique.
C'est
donc,
ça.
Dans tous les cas, ça n'apporte pas grand-chose.
C'est ça. Il y a peu de nuances. Et puis aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une société de plus en plus manichéenne, ouais. Où on est obligé sans arrêt de choisir son camp. Et quand on émet le moindre petit doute, bah par exemple aujourd'hui, quand tu émets le moindre petit doute sur la politique de Netanyahou, hop, tu fais le jeu du Hamas. Bon, voilà, un peu de nuance, un peu de hauteur de vue. Donc voilà, c'est ça qui nous manque et je pense que c'est pour ça que les gens en ont de plus en plus besoin.
Pourquoi est-ce que tu penses qu'on est dans cette forme de plus en plus de dualité? Je le remarque totalement. En fait, ce qui me dérange beaucoup, c'est cette croyance qu'il y a d'un côté le bien, d'un côté le mal. Et donc, on juge tout le monde par rapport à ce prisme. C'est soit c'est quelqu'un de bien, soit c'est quelqu'un de mal. Déjà, c'est très différent d'être quelqu'un de bien ou de faire quelque chose de bien. Il en va de même avec le fait de faire quelque chose de mal ou d'être quelqu'un de mal. Mais en plus de ça, c'est vrai que je n'explique pas... Enfin, ma théorie, c'est que les gens cherchent la facilité. Voilà. Mais si je prends, tu vois, concrètement, quelqu'un qu'on va condamner pour avoir dit tel propos, en fait, beaucoup ne cherchent même pas à comprendre le contexte dans lequel ça a été dit, la version de tout le monde. Est-ce que voilà, il y a des circonstances qu'on n'a pas en tête? Non, c'est... OK, cette personne a dit ça, eh bien, on la cancel, tu vois. Je trouve qu'il y a aujourd'hui cette réflexion qu'il y avait moins avant. Après, moi, j'ai toujours finalement grandi dans cette époque... Donc je sais pas tellement comment c'était, hein. Mais c'est vrai que, et d'ailleurs je trouve que dans ton livre Dans le rire, tu montres bien parfois qu'on a l'impression que aujourd'hui c'est comme ça alors qu'en fait ça fait longtemps que ça l'est. Bon, est-ce que toi par rapport à cette binarité, on va dire, de la société ou de l'individu, tu as l'impression que c'est un phénomène récent et qu'est-ce qui peut l'expliquer?
Alors, est-ce que c'est un phénomène récent, le manichéisme en fait, ouais. Hein, le fait que c'est ou tout blanc ou tout noir? Je ne pense pas. Je pense que là, ce qui peut donner ce sentiment, c'est que ce manichéisme s'exprime et s'exprime bruyamment puisque tout le monde à voix au chapitre et tout le monde peut s'exprimer. Et il n'y a plus de hiérarchisation des contenus, c'est-à-dire que tu vas avoir sur un fil Twitter, tu vas avoir, François Ruffin, quelqu'un qui va dire quelque chose d'articulé. Puis juste après, ou juste en dessous, tu vas avoir quelqu'un qui dit fils de pute, connard. Et tout ça, c'est pas hiérarchisé. Donc en fait, c'est très très déstabilisant. Enfin, moi qui suis qui ai un certain âge, j'arrive très bien à faire la différence entre un propos articulé et une invective, mais pour les jeunes, ça doit être très difficile. Maintenant, plus profondément, je pense que le fait de se revendiquer d'un camp ou d'un autre, c'est rassurant. C'est-à-dire, comme toutes les certitudes, ça rassure. Quand on est dans un environnement très anxiogène, on a besoin de se rassurer. C'est à ça que servent les religions, d'ailleurs. Ça sert à avoir une certitude, ou en tout cas une croyance, qui fait que, voilà, la vérité, elle est là, tu n'as qu'à la suivre. Et c'est, voilà. Et le chemin est tracé, il est dans les écritures. Donc là, il y a le succès des religions vient de là, à mon avis. C'est que ça t'apporte des réponses à des questions métaphysiques qui sont en réalité insupportables. C'est-à-dire que quand tu te confrontes toi-même à ta propre mort, à ta propre finitude, c'est juste insupportable. Et encore plus celle de tes enfants, enfin, que tu n'as pas encore, mais que je te souhaite. Enfin, si tu en veux, hein, encore une fois.
C'est très aligné de l'actualité, je vais repeupler la France.
Je ne mettrai pas du tout d'assignation à la maternité, non pas du tout, si tu en désires. Donc voilà, il y a quelque chose de sécurisant de se dire j'appartiens à un camp, voilà, moi j'ai un credo, je m'y accroche, etc. Et tous les gens qui ne pensent pas comme moi, se trompent, sont dans l'erreur. C'est très rassurant. Et donc, comme je reviens sur cette époque hyper anxiogène, plus une époque est anxiogène, plus elle a besoin de se rattacher à des certitudes, y compris des certitudes complètement irrationnelles, comme on a vu, toutes les théories, les histoires les anti-vax, les complotismes, etc., bon, viennent d'une volonté de trouver une croyance qui te rassure. Moi, j'ai une amie qui est hyper intelligente, hyper rationnelle, mais elle, son truc, c'est l'astrologie. En quelque sorte, ça la rassure. Je dis, ah ben oui, ben c'est normal, je suis gémeaux. Ben, c'est normal qu'il m'arrive ça, mais je suis gémeaux. Et toi, ah ben, t'es taureau, ben, cherche pas. L'autre jour, elle m'a dit, mais cherche pas, t'es taureau. Ben alors, ouais, si tu cherches pas, parce que t'es taureau, ben voilà, c'est quand même c'est assez rassurant. Mmh. Moi, j'adorerais ne plus chercher, ne plus me poser de questions. Parce que les questions, c'est à la fois ce qui me fait avancer, ce qui me stimule, parce que j'ai envie de... Mais en même temps, c'est, encore une fois, c'est une espèce de gesticulation mentale qui s'arrête jamais, alors que si tout à coup on me dit, bah voilà, c'est ça la vérité, bah ça y est, c'est bon, j'arrête et je me repose. Donc je crois que c'est ça, c'est pour ça que les gens veulent... Alors en revanche, ce que je m'explique moins, enfin c'est un autre débat, c'est pourquoi on éprouve autant de haine pour ceux qui ne pensent pas comme nous. Ça c'est cette haine qui s'exprime en ligne, moi qui me pétrifie, qui me terrifie. C'est pour ça que je suis pas sur les réseaux sociaux, à cause de cette haine omniprésente, parce qu'elle me fait peur, elle me fait réellement peur. Pas seulement parce que j'ai peur qu'on m'attaque moi, c'est parce que je trouve ça effrayant de s'insulter, de perdre en fait l'horizon de notre commune humanité. C'est-à-dire que c'est le rejet de l'autre que je trouve le plus pathétique dans notre société.
En fait, ce qui m'inquiète dans ce que tu nous partages, c'est que du coup, quand on voit quand même que la religion est présente depuis autant de siècles et que même aujourd'hui, même si elle est en perte de vitesse, on voit qu'il y a d'autres formes de certitude qui émergent, on pourrait en tirer l'hypothèse que la certitude est naturelle pour l'homme avec un grand H, et que la philosophie, par définition, qui est plutôt l'art de remettre en question, donc de ne jamais être certain de quoi que ce soit, est contre nature.
Oui, mais sauf que ces certitudes, elles nous déçoivent. C'est-à-dire qu'en fait, ces certitudes, on se rend compte assez rapidement que c'était des illusions. On se comprenait pour une certitude et était une illusion en réalité. Parce qu'il y a peu de certitudes, il y a peu de choses qui soient absolument certaines. Dans aucun domaine d'ailleurs. La certitude, il se pourrait que ce soit vraiment une illusion, c'est une chimère. On la recherche. C'est pour ça que je préfère parler d'une forme de recherche de sagesse, qui est la prise de conscience que la certitude est une illusion. Mais la sagesse, c'est différent. C'est essayer justement de prendre conscience de cette précarité de la certitude, mais d'en faire quand même quelque chose, c'est-à-dire de trouver une voie, de trouver un chemin qui nous satisfait. Parce que Ce qui est certain pour un, pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Et donc tout ça est très relatif. Donc je pense que justement, on est en quête de certitude. Donc il y a soit ceux qui sont persuadés de l'avoir trouvé et qui sont pour moi pas forcément très intéressants et qui deviennent un peu manichéens parce qu'ils sont sûrs d'avoir raison. Donc ça veut dire que les autres ont tort. Et à l'inverse, l'attitude philosophique, mais qui est peu... pas la plus minoritaire, mais comme tu le disais justement, elle fait de plus en plus d'émules ou d'adeptes, de gens qui s'y intéressent. C'est au contraire l'attitude qui consiste à dire « Bon, voilà, c'est incertain, moi je ne sais pas ce que c'est que la mort, j'en ai aucune idée, je ne l'ai jamais vécu, donc je ne vais pas vous dire c'est ça et il n'y a rien après, je ne vais ni vous dire qu'il y a un Dieu qui vous attend, ni vous dire qu'au contraire, c'est le matérialisme qui a raison et que vous allez vous transformer en plus tard. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est comment on peut essayer de faire de sa vie quelque chose qui vous rende la mort moins effrayante. Ça, la philosophie peut le faire. Elle ne peut pas vous dire ce qu'est la mort, avec certitude. Elle peut vous dire, voilà comment mener et conduire votre vie de manière à ce que la mort vous paraisse un petit peu moins effrayante. Comme disait Platon, philosopher, c'est apprendre à mourir. Bon, je trouve ça un peu sinistre comme définition, mais en fait, ça peut paraître sinistre, mais en réalité, c'est très joyeux. C'est comment faire de sa vie quelque chose qui nous rende la vie, la mort moins. Parce que si t'as vachement bien, enfin, si t'as super bien rempli ta vie et que t'es en paix avec, alors je dis pas à 50 ans, mais quand t'as l'âge de, un certain âge, et que t'as rempli ta vie et que tu as rendu les gens autour de toi heureux, que tu as aimé et été aimé, ben voilà! Est-ce que la mort est si effrayante que ça?
Est-ce qu'il y a des certitudes que tu avais que la philosophie t'a appris à remettre en question?
Bah, écoute, par exemple, des certitudes. Moi, j'avais pas des certitudes, mais j'ai été élevée, j'ai reçu une éducation religieuse, chrétienne. Bon, un peu par accident, parce que mes parents n'étaient pas spécialement...
pratiquants.
Si, ma mère plus que mon père, mais bon. Mais disons que ça s'est fait parce que j'étais en Suisse pendant l'adolescence et que ma mère voulait que j'aie un bac français. J'étais dans une école à l'époque où c'était des bonnes sœurs. Bon. Et donc, au début, j'étais certaine que Dieu existait. C'était une croyance, mais moi, on me la faisait interpréter comme une certitude. Voilà. Et mon entrée en philosophie, elle s'est faite sur une conversation avec ma grand-mère, qui était donc chrétienne, protestante. Et le 25 décembre, on passait le jour de Noël chez elle, et il y avait obligation, je dis bien obligation pour les enfants, d'aller au temple, parce qu'on dit au temple, pas l'église chez les protestants. Et tous les 25 décembre, ça se discutait même pas, il fallait y aller. Un jour, un 25 décembre, tout à coup, je suis au petit déjeuner, je dis à ma grand-mère... Ah non, j'y vais pas cette année. Et elle me dit, mais pourquoi? Et je lui dis, je sais pas si je crois toujours en Dieu et tout. Elle me dit, écoute. Elle était très, très, très intelligente, ma grand-mère. Elle me dit, écoute, ok, d'accord. On peut avoir cette discussion sur Dieu, sur l'existence de Dieu, etc. Mais tu vas la nourrir. Donc tu vas réfléchir à tout ça. Et puis quand tu auras quelque chose d'intéressant à me dire sur la religion, on en reparlera et peut-être, éventuellement, tu pourrais être dispensé du temple le 25 décembre. Eh ben, ça m'a fait énormément réfléchir parce que ce que j'essayais de lui dire, mais j'y arrivais pas, évidemment, j'avais pas les mots. Je voulais lui dire exactement ce que dit Kant. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais l'intuition, mais comme une môme, comme une ado, que on pouvait très bien être moral, gentil, faire le bien autour de soi, sans avoir besoin de passer par Dieu, et qu'on pouvait même ne pas croire en Dieu, parce que je commençais à avoir des doutes. Mais je voulais quand même dire à ma grand-mère, tu sais, je suis une bonne fille, je suis bonne, j'ai des bonnes idées, j'ai des bonnes intentions, et pourtant je crois pas en Dieu. Et pour moi, c'était impossible. C'était Dieu qui nous disait où était le bien et le mal, et ne pas croire en Dieu. Par exemple, je me sentais hyper coupable quand je faisais pas ma prière le soir dans ma tête, quand j'étais petite, hein. Et puis un beau matin, je me suis dit, mais en fait, mes prières, elles servent à rien. Parce que je m'étais rendu compte que j'avais prié pour un truc. J'avais prié pour qu'un garçon me regarde, pour être franche. Et au bout de 6 mois, il me regardait toujours pas. Et je comprenais pas. Et je me dis, mais pourtant, j'ai prié. Donc, j'ai commencé à remettre les choses en question à cause d'un garçon. Voilà. Donc, évidemment, ça, je pouvais pas le dire à ma grand-mère. Mais en revanche, l'année d'après, je suis allée lui dire, parce que j'ai commencé à interroger un peu, j'en ai discuté autour de moi. Je lui dis, tu connais un philosophe qui s'appelle Kant? Kant, il a dit qu'on pouvait quand même arriver à comprendre la loi morale et à comprendre le bien et le mal sans avoir besoin de passer par Dieu, que ça pouvait être un raisonnement intérieur. Alors là, j'ai eu une discussion hyper intéressante avec ma grand-mère. Elle m'a dit « Ah, bon, alors d'accord, je vois que c'est réfléchi, je ne t'oblige plus. » Et de ce jour-là, j'y suis plus allée. Voilà,
tu as remis en question la certitude religieuse.
Qui en fait n'était pas une certitude, c'était une croyance.
Ouais.
Mais pour moi, c'était une croyance assénée comme une certitude. C'était Dieu existe, il y a un paradis, et si tu fais ta prière, tu iras au paradis. Ça, c'était la certitude que j'avais quand j'étais petite. Mais c'était hyper rassurant. Du jour où j'ai commencé à ne plus croire en Dieu, j'ai commencé à me ronger les ongles, à faire anorexie boulimie, parce que j'étais paumée, parce que j'avais plus mes certitudes. Mais j'avais quand même l'impression qu'il fallait que je continue dans cette voie et qu'un jour, j'allais trouver quelque chose. Et j'ai mis beaucoup de temps. Je ne sais pas si je l'ai vraiment trouvé aujourd'hui, toujours pas. Mais enfin, cette quête, elle a commencé à porter ses fruits au fil du temps.
Mais ce que tu soulignes est hyper intéressant. En fait, il y a une forme de confort dans le code de conduite que délivre la religion, qui est finalement « agissez ainsi, vous aurez ça, ne faites pas ci pour ne pas avoir ça ».
Oui.
Tu vois, si toi, là, tu devais, on va dire, refléter sur ton passé, qu'est-ce qui t'aurait aidé pour gagner du temps et pour finalement dépasser cette angoisse existentielle de « ok, bon, bah maintenant, je ne crois plus en Dieu, donc je ne sais plus finalement quoi faire pour avoir la vie éternelle ou je ne sais plus juste quoi faire de ma vie ». Qu'est-ce qui peut aider une personne, peut-être des personnes qui nous écoutent, qui sont dans ce cas-là aujourd'hui ?
Alors, moi, il y avait un texte, aussi un texte que je pourrais peut-être recommander, mais en fait, je ne sais pas s'il répond vraiment à ta question. C'est un tout petit texte de Sartre qui s'appelle « L'existentialisme est un humanisme » et où, en fait, il explique que on est toujours libre, en réalité, même quand on est... même il est bien conscient qu'on a des déterminismes, mais on est toujours libre. Et en réalité, cette liberté, elle est très angoissante, mais elle est aussi très émancipatrice. Et c'est très ambivalent. Donc moi, je peux pas te dire, on va trouver des réponses là. Mais par exemple, il dit à un moment qu'il y a de l'indécidable. Dans la loi morale, par exemple, il y a de l'indécidable. À un moment, je crois, il y a un jeune étudiant qui vient le voir, c'est pendant la guerre. Alors, je sais plus exactement le détail, mais je crois qu'il lui dit, écoutez, voilà, moi, je sais pas où est le bien, je sais pas quoi faire, parce que là, soit j'ai la possibilité de partir à Londres, rejoindre De Gaulle et rentrer dans la résistance, mais là, je vais me mettre au service de la France et de la paix, mais je vais devoir sacrifier ma mère qui n'a plus que moi. Donc, si je reste à Paris, je reste proche de ma mère, donc je suis utile à une personne, mais pour cette personne, je représente tout. C'est toute sa vie qui est bouleversée, parce que si je pars, elle n'a plus personne. Alors que si je m'engage à Londres, je vais servir le bien commun, mais j'abandonne ma mère. Et il lui dit, qu'est-ce que je fais? Et il lui dit, il n'y a pas de réponse. C'est marrant, parce qu'un jour, j'ai dit ça, j'ai raconté cette anecdote, enfin, cette anecdote, c'est pas une anecdote, mais cet exemple à une classe, c'était des terminales, je crois, et il y a quelqu'un qui lève la main et qui me dit, mais pourquoi il n'a pas emmené sa mère à Londres? J'ai dit, oui, c'était la bonne idée. Mais en réalité, il explique qu'il n'y a pas de vrai et de juste. C'est à chacun de trouver cette vérité, mais je conçois que c'est frustrant comme réponse parce que justement là t'es en train d'essayer de me faire dire qu'est-ce qu'elle pourrait être la recette en réalité. Il n'y a pas vraiment de recette. En fait, la seule recette vraiment que je trouve, qui moi m'a vraiment servi, c'est essayer de se construire indépendamment du regard d'autrui. Parce que c'est le regard, et ça encore c'est une histoire de Sartre, de Lévinas, c'est en fait ce regard d'autrui, cette pression sociale, ces assignations, ces injonctions, alors qu'elles soient à la réussite sociale, à la performance, etc., mais aussi les injonctions de genre qui sont pesantes, et tu le sais aussi bien que moi, je sais que tu en parles beaucoup, que ça t'intéresse beaucoup, ces assignations de genre qui sont à la fois un piège pour l'homme et pour la femme, parce qu'on est tous tributaires de l'image sociale qu'on doit renvoyer en tant que femme ou en tant qu'homme. Donc, être obligé de jouer cette parade quotidienne de la femme et de l'homme, c'est assez éprouvant. Et en réalité, il faudrait pouvoir faire ses choix, abstraction faite de ce que va en penser l'entourage ou ce que va en penser la société. Par exemple, parfois, je vois des gens dans un certain milieu, il faut absolument faire une grande école ou une école de commerce parce que c'est ça la réussite, ou une école d'ingénieur. Voilà. Et puis, tu as des jeunes qui n'ont absolument pas vocation à ce type-là de réussite, mais qui vont se sentir obligés, pour faire plaisir aux parents, pour être conformes à une certaine norme, d'aller dans cette direction-là, alors que ça n'est pas eux, ça ne les représente pas, et ils en sont terriblement malheureux. Moi, j'ai un cousin, je lui dirais d'écouter le podcast, dans ma famille, on fait Sciences Po, c'est tradition. Voilà, il faut faire Sciences Po. Donc, on a presque tous fait Sciences Po dans la famille. Ma mère a fait Sciences Po, mon frère a fait Sciences Po. Mes cousins ont fait Sciences Po. Tout le monde a fait Sciences Po dans la famille. Pas faire Sciences Po, c'est presque une anomalie. Donc, lui, il a fait Sciences Po et du droit. Et puis, il s'est retrouvé à faire un job de directeur de marketing. Donc, il gagnait très bien sa vie. Il était, comme on dit, sur la très, très bonne voie. Et un beau matin, il m'appelle et il me dit « Je m'emmerde ». J'ai l'impression de passer à côté de ma vie, c'est pas moi, et il est allé encore plus loin que je m'emmerde. Donc il me dit, j'ai l'impression de me gaspiller mon temps, je vais tout plaquer, et je vais partir à Majorque, et je vais écrire. Et il a tout plaqué, alors il a mis un peu d'argent de côté, il a travaillé pendant 6 ans, il a mis l'argent de côté, il est parti, il a tout plaqué, et est allé s'installer, et là-bas, on a discuté, et il m'a dit, je veux enseigner, je lui ai dit, mais vas-y, mais passe la grecque de philo, tu vas voir la philo, ça va te plaire, enfin, il en avait déjà fait, évidemment, et il a complètement changé de vie à, je sais pas, il devait avoir au moins 28 ans, 28, 30 peut-être même. Il a passé la grecque de philo, il est prof de philo, il est extrêmement heureux comme prof de philo. Mais il faut oser se donner les moyens parce que, effectivement, la famille, notamment la fameuse grand-mère, mais comment? Mais cela dit, la philo, c'était noble. Il serait parti pour juste fumer des joints à Majorque, je pense que ça lui aurait pas plu. Mais passer la grecque de philo, c'était très noble.
Et encore, il avait la chance de savoir où il voulait aller derrière. Parce que je pense que ce qui paralyse beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est d'être potentiellement pas épanoui, mais de n'avoir pas de raison, on va dire, rationnelle de ne pas l'être.
Ouais.
Donc en plus, t'as la culpabilité de « j'ai entre guillemets tout pour être heureux, mais je ne le suis pas ». Et je trouve que ça peut être très difficile de savoir du coup forcément vers où aller. Donc déjà, je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus, mais j'avais aussi envie de te demander, pour terminer sur ce côté plus de ce que la philosophie peut apporter, est-ce que la philo t'aide dans la prise de décision? Est-ce que tu aurais des conseils à nous partager? Parce qu'au-delà de se détacher du regard des autres, bon, ok, une fois qu'on se dit « je me suis détaché du regard des autres, je fais ça pour moi », mais je trouve que parfois, il y a un... Enfin, c'est peut-être que moi, hein, c'est peut-être lié à mon signe astrologique, j'en sais rien, mais j'ai vraiment cette indécision très difficile où, tu vois, je finis par faire des listes, à demander tout le monde autour de moi ce qu'ils en pensent, mais parfois, je me dis que je gagnerais peut-être à avoir une approche plus philosophique, ne serait-ce que choisis, tu verras bien si ça te plaît ou pas, quoi.
Alors, ta question, c'est est-ce que la philosophie, ça peut nous aider à savoir qui nous sommes, suis-je.
Pour moi, la philosophie aide à ça.
Oui.
Mais comment est-ce que concrètement, parce que parfois la philosophie peut être très abstraite, comment est-ce que concrètement ça peut nous aider dans la prise de décision?
Ah, je suis pas sûre que ça aide dans la prise de décision, franchement.
Est-ce que toi, tu as déjà eu une décision à prendre difficile et tu es allé chercher du côté de la philo?
Je dois dire que moi, la philosophie, elle m'a plus aidée à traverser des périodes très difficiles que aider à trouver des solutions. En fait, la question que tu me poses, c'est la question de la vie. C'est-à-dire que je pense que le questionnement, il est consubstantiel à l'existence, en fait. Si tu arrêtes de te questionner, c'est que tu meurs. Vivre, c'est s'interroger. Enfin, je crois. Donc, c'est douter, c'est ne jamais être certain, c'est peut-être regretter, regarder en arrière. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Moi, honnêtement, je suis pas un modèle parce que je suis assez indécise, que je me suis trouvée tardivement, enfin que j'ai beaucoup essayé de choses. J'ai dit à un moment, j'ai fait du théâtre et puis c'était plus le théâtre. Et j'ai cherché aussi d'autres voies. Je vais pas raconter toute ma vie, mais ça pas du tout été évident pour moi. Voilà, je veux faire prof de philo. D'ailleurs, j'ai pas passé la grègue parce que quand j'étais étudiante, je voulais pas du tout être prof de philo. Ça m'est venu comme ça. Ça m'est venu par la prison des femmes, comme je te dis, en faisant un atelier de théâtre. Je me suis dit, en fait, ce que j'aime, c'est éveiller des petites lumières dans l'esprit des gens. Donc ça passe. Voilà. enseigner la philosophie. Et donc, en fait, moi, je pense pas que la philosophie, elle puisse te guider. Au contraire, elle va t'apprendre à te poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'es devant un problème philosophique, typiquement le rire, peut-on rire de tout? C'est pas que je veuille absolument ramener mon bouquin, mais bon. En fait, c'est ce qu'on apprend aux élèves en terminale quand on leur dit, il faut problématiser. Voilà, le truc que tu leur répètes tout le temps. Problématiser, qu'est-ce que c'est? C'est prendre un problème et le décomposer en une multitude de questions. Alors, si je prends un problème tout bête, qu'est-ce que je fais cet été? C'est quoi mes projets cet été? On est en janvier et j'ai ton âge, hein, parce que là, moi je sais ce que je fais cet été. Mais bon, quand on est jeune. Mais en fait, ça dépend. Pour répondre à la question « Que fais-tu cet été ?», tu vas devoir résoudre plein de paramètres. D'abord, quel sera l'état de mon compte en banque au mois de juillet? Avec qui? Est-ce que je pourrais avoir des congés? Est-ce que je serai encore avec mon petit ami? Est-ce qu'on va partir à deux? Ou est-ce que j'essaie de faire un plan avec des copines? Etc. Donc, en fait, il va y avoir 1000 questions auxquelles tu vas devoir répondre avant de répondre à la question « Que fais-tu cet été ?». Bon, en philo, c'est pareil. Si je te dis « Peut-on rire de tout ?», eh ben, il va falloir que je me pose multitude de questions. Donc, en fait, les réponses, paradoxalement, elles viennent du fait que tu t'es posé les bonnes questions. Les bonnes questions. C'est-à-dire que tu as déployé une question en un questionnement. C'est-à-dire en une multitude de questions. Et donc, si tu fais ce travail-là, au bout du compte, en résolvant une petite question, puis une petite question, puis une petite question, puis une petite question, tu vas y arriver. Mais si tu prends la question en bloc, genre, quel est le sens de ma vie? Est-ce que je suis heureuse? Ah ben, c'est beaucoup trop gros comme question. Il faut que tu décomposes. Et c'est ça qu'on apprend, en fait, en philosophie. C'est décomposer un problème en plus petits problèmes que tu peux saisir. Et ensuite, une fois que tu les as saisis, ce en quoi je trouve que la philosophie est utile, c'est qu'elle te permet aussi de distinguer entre des choses qui sont souvent confondues ou amalgamées. Par exemple aussi, typiquement, moi, une des choses sur lesquelles j'insistais beaucoup quand j'enseignais avec des prépas ou des terminales, c'est quand on a un sujet, par exemple, qu'est-ce qu'être heureux, qu'est-ce que le bonheur? En fait, le bonheur, c'est un sujet sur le malheur. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce serait l'inverse de ce bonheur? Et le bonheur, à quoi ça s'oppose et de quoi c'est proche tout en étant un peu distinct. Donc par exemple, le bonheur ne doit pas être confondu avec l'allégresse, qui ne doit pas être confondu avec la joie, qui ne doit pas être confondu avec le plaisir, qui ne doit pas être confondu avec la félicité. Et donc en fait, toutes ces petites distinctions sémantiques, elles te permettent d'avancer. Donc en fait, c'est en déroulant des questions que tu trouves des réponses. Mais il faut dérouler ces questions. Et c'est une technique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas donné. Et en fait, je pense que la seule chose qu'on puisse vraiment apprendre en philosophie, et c'est le plus utile, parce qu'après, justement, pour les étudiants, ça leur sert pour toutes les questions, c'est comment tu déroules ta pelote. C'est vraiment dérouler ta pelote. Et t'as un sujet énorme, t'as les sujets de philo, ils sont énormes au bac. Voilà, je veux dire, pourquoi a-t-on peur de moi? Qu'est-ce qu'être libre? Ben voilà, qu'est-ce qu'être libre, typiquement? La première question à se demander, c'est qu'est-ce qu'être aliéné? Et qu'est-ce qu'être déterminé? Et c'est ça qui va te faire répondre. Et donc, pour en revenir à la prison avec les femmes, là, c'est un jour où je leur ai demandé de réfléchir à qu'est-ce que la liberté? Je me suis rendu compte qu'elle, en fait, elle disait, mais qu'est-ce que c'est que l'absence de liberté? Qu'est-ce que c'est que l'aliénation? Qu'est-ce que c'est que l'enfermement? Tu vois? Et donc, en fait, quand tu te poses une question, en fait, tu y répondras mieux si tu te poses d'autres questions tout autour. Je sais pas si ça répond à ta question, du coup.
C'est génial. Je trouve que c'est hyper, hyper utile. Et c'est marrant, moi, c'est comme ça que je construis mes livres. Et du coup, je vais te demander, toi, comment tu construis les tiens. Mais avant ça, une autre question que je me posais par rapport à ce qu'on s'est dit là. Je me demande, est-ce que toi, tu as un objectif? Je pose cette question déjà parce qu'il y a une forme d'injonction aujourd'hui à avoir des objectifs à accomplir et qu'on entend beaucoup cette phrase de « on ne peut pas atteindre un objectif si déjà on n'en a pas la vision ». Mais aussi parce que j'ai quand même le sentiment que l'humain aime progresser et que, voilà, comme par exemple un cuisinier pourrait avoir différentes étapes à franchir et puis toujours aller chercher celle d'après, chef, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, j'ai l'impression que dans le fait d'être philosophe, professeur, voilà, c'est dénué de tout ça et du coup ça peut parfois être dur de savoir où on va. Quelle est toi ta vision par rapport à ça?
Alors moi, la question des objectifs, elle est assez floue chez moi, j'avoue. J'ai beaucoup de mal à me projeter dans le futur d'une manière générale. ça m'angoisse le futur. Enfin, je devrais pas dire ça en tant que philosophe, hein, mais bon.
Tu es humaine, spoiler. Voilà.
Si moi j'ai un objectif, c'est de faire gagner du temps aux gens qui me lisent et de les aider. Souvent, c'est qu'à chaque fois, mes livres sont partis d'une question qui m'obsédait et qui m'avait parfois rendue malheureuse. Et je me disais, si je peux faire gagner du temps à des jeunes, notamment par exemple sur la question de l'amour, pourquoi j'ai écrit mon premier livre sur l'amour?
Je t'aime à la philo.
Parce que l'amour avait toujours été pour moi une... D'abord, la problématique première et essentielle. Ça a commencé très jeune, comme je te le disais tout à l'heure, avec ce garçon qui ne me regardait pas. Mais pourquoi, voilà, ouais, pour en reparler, pourquoi, ouais, on s'intéresse toujours à ceux, ouais, qui ne nous regardent pas, ouais. Et ouais, ceux qui nous regardent, on les trouve tellement ennuyeux et pas drôles.
Mais ça, c'est hyper intéressant. Je relisais le sommaire là, avant que t'arrives, de tous tes livres. Et il y en a un qui m'a particulièrement interpellée, c'est « Choisit-on l'être aimé ?» C'est un de tes chapitres.
Oui, oui.
Et c'est tellement... Enfin, oui. Dis-nous. Alors, pas tout, parce qu'il faut lire le livre pour vraiment savoir, mais...
Oui, c'est-à-dire...
Comment ne serait-ce que... Et c'est lié à la question de comment tu construis tes livres, mais comment trouver la réponse à cette question et est-ce que c'est le but, d'ailleurs?
T'as un débat là-dessus. Est-ce que j'aime quelqu'un parce qu'il est bien, ou est-ce que c'est... Enfin, c'est un débat entre Descartes et Spinoza, d'ailleurs. Bon, est-ce que j'aime quelqu'un parce qu'il a des qualités, ou est-ce que c'est parce qu'il a des qualités que je l'aime? Bon, c'est indécidable. Et celui qui a le mieux répondu à cette question, je pense que c'est Jean Kélévitch, qui a dit qu'en réalité, l'amour était toujours une préférence infondée, injustifiée, arbitraire, parfaitement aléatoire. Et c'est Montaigne qui l'a dit, j'aime la Boétie parce que c'était lui, parce que c'était moi. Donc c'est une préférence complètement infondée. Et même souvent, on va aimer ceux qui vont nous faire du mal, parfois. Donc cette question, moi, je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il y a quelque chose de complètement mystérieux dans le choc amoureux, dans le fait de tomber amoureux. Donc, de quelles étoiles sommes-nous tombés l'un vers l'autre, comme disait Nietzsche? Voilà, c'est, on ne sait pas. Qu'est-ce qui fait qu'un tel, tout à coup, va te faire vibrer? Il y a eu plein de philosophes, ce que j'ai montré dans le chapitre de ce livre, Choisit-on l'être aimé, qui ont essayé de dérouler ce truc-là, donc de répondre. Donc, si t'écoutes Freud, il va te dire, voilà, papa, maman, c'est des amours d'infantile, la scène primordiale, la scène parentale, etc. Bon, tu peux te dire, oui, c'est parce qu'il me rappelle mon père ou ma mère, ou c'est parce qu'au contraire, c'est le contraire de mon père. Ça éclaire. En fait, à chaque fois, t'as des éclairages, mais au bout, tu restes dans le mystère.
Il n'y a pas de vérité.
Non, il n'y a pas de vérité, mais...
En quoi ça t'a aidé, toi, d'écrire ce livre?
Alors, moi, l'histoire de ce livre, elle est très intime. Enfin, c'est vraiment le cœur même de ma vie, ce livre, parce que on va se faire des confidences que personne n'écoute, n'est-ce
non,
pas?
On est entre nous.
On est vraiment entre nous. En fait... Quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'étais en pleine déréliction amoureuse. C'est-à-dire que le père de mes filles m'avait quitté pour une autre. L'histoire d'une banalité absolue, plus jeune, évidemment. Évidemment, sinon ce serait pas banal. Ce truc-là, que pour moi était d'une vulgarité, d'une banalité, ça arrivait à tout le monde. Tout à coup, ça t'arrive à toi et tu te dis, bon, ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai échoué? En plus de ça, ayant eu des parents eux-mêmes divorcés, moi je m'étais juré que je ne divorcerais pas. Et que quoi qu'il arrive, je ferais vivre mon couple. Et donc je me suis battue quand même, mais il n'y a rien à faire. J'ai perdu face à cette jeune femme. Tout naturellement, j'ai commencé à griffonner des papiers chez moi, des journaux sur l'amour. C'est une illusion, c'est une mystification. Faut pas y croire, n'y croyez pas. Puis à ce moment-là, bon, je ressors Simone de Beauvoir et tout ce qu'elle a dit sur l'amoureuse. Toutes ces choses qui sont vraies. C'est-à-dire le fait que nous, on est programmés, on est élevés, on est socialisés dans l'idée que on va trouver notre prince charmant. Même encore maintenant, on est structurés par l'attente. Ça, elle le dit très bien. On attend le miracle amoureux. Donc, parfois, on l'attend...
longtemps.
Très longtemps, et dans la solitude totale, sans rien faire pour... Donc, on l'attend, et on est dans une position de passivité par rapport à ça. Et puis, tout à coup, il arrive, et il te révèle à toi-même. Et l'amour, c'est le révélateur de ma personnalité. Donc, moi, j'étais en plein dans cette illusion. Donc, je me suis pris la claque de ma vie, parce que moi, j'avais été baignée quand même dans cette... dans ce mythe de l'amour romantique qui dure toute la vie, la passion exclusive, toutes ces choses-là auxquelles, alors tu parlais de certitude, c'était pas vraiment une certitude, mais en tout cas c'était une espérance très forte et une croyance que ça pouvait exister. Et puis j'étais très aussi, on peut dire, intoxiquée par mes lectures qui allaient toutes dans ce sens-là. Et puis voilà, l'échec. Et c'est l'échec qui m'a fait réfléchir à, enfin, au fond, qu'est-ce que c'est que l'amour? Et donc j'ai, pour répondre à cette question, qu'est-ce que l'amour? Eh bien, j'ai dû la découper, c'est ce que j'ai fait dans le livre. D'abord, est-ce qu'on le choisit? Choisit-on l'être aimé? Pourquoi l'amour fait-il autant souffrir? Pourquoi est-ce qu'il y a une forme d'illusion dans l'amour? Est-ce que c'est une attirance biologique ou est-ce que c'est pas biologique? D'où ça vient? Pourquoi on est structuré par ce grand mythe de l'amour-passion, etc., etc. Donc, j'ai décomposé. Et il se trouve que pendant la rédaction de ce livre, qui m'a pris plusieurs années, sur son cheval blanc est arrivé un autre homme dont je suis tombée éperdument amoureuse. Et donc, tout à coup, panne d'inspiration, parce que tout le début du livre, c'était « L'amour n'existe pas, c'est une illusion, réveillez-vous mesdames, lisez Simone de Beauvoir, vous allez voir le prince charmant, tout ça, allez balayer, trouvez votre vérité en vous. » Tout ça, mais j'étais tombée de l'autre côté en fait, je n'y croyais plus, c'était la démystification totale de l'amour et du concept. Et tout à coup, je rencontre un homme dont je me dis, bah oui, non, en fait, voilà, ça se passe super bien. Je me projette avec lui. Je crois que je pourrais encore, et je suis avec lui encore 15 ans après. Et tout à coup, je me suis dit, bon, en fait, ça peut exister. Donc, ça, il faut quand même y croire. Et donc, la question, c'était, à quelles conditions peut-on faire durer l'amour? Qui est encore une autre question. Donc, je me suis posé la question, c'est la dernière du livre, c'est peut-on promettre l'amour éternel? Qui est une vaste question. En tout cas, je ne sais pas si on peut le promettre, mais en tout cas, on peut y croire. Le promettre, c'est encore autre chose. Mais en fait, il y a les deux mouvements dans ce livre, c'est-à-dire qu'il y a un début qui... Enfin, je ne sais pas si ça se sent, mais il y a quand même tout un début. Il y a toutes les raisons de ne pas y croire et de dire que c'est une mystification et que c'est une aliénation et que les femmes se perdent là-dedans. Enfin, les hommes aussi d'ailleurs, mais enfin, c'est surtout les femmes parce que les femmes... Enfin, pas surtout les femmes, je retire ce que je viens de dire. Mais disons que nous, on a été élevés avec l'idée que c'est notre vocation naturelle d'aimer, que l'amour chez nous, c'est notre vocation. Et donc, on est un peu la gardienne de l'amour dans le couple. Et donc, l'homme, il peut aller à droite, à gauche, faire la vie, etc. Mais nous, notre vocation, c'est d'être la vestale, de garder la flamme. Donc, c'est nous le foyer, c'est nous l'amour, c'est nous la sentimentalité, c'est nous qui devons aimer les enfants. Voilà, tout ça, je l'ai réexaminé et ça m'a servi dans ma vie. Et donc, pour en revenir, pour boucler la boucle, j'espère que ce livre est utile. Alors, je crois qu'il l'est parce qu'on m'a déjà dit que ça avait été quelque chose d'un peu de l'ordre de la révélation sur certains plans, parce que tout à coup, ça éclaire des problématiques que chacun et chacune à laquelle chacun et chacune est confronté. Et donc, ça met des mots dessus, et puis ça les décortique. J'essaie d'analyser, de décortiquer, et encore une fois, de confronter les points de vue. Par exemple, sur cette question de « Choisit-on l'être aimé ?», j'ai confronté. Il y a Descartes, il y a Spinoza, il y a Freud, il y a Jean Kelevitch. Et qu'est-ce que chacun a dit? Et j'essaye de simplifier, parce que sinon, ça sert à rien pour moi.
Et justement, comment... en plus, tu sais qu'on s'est eu au téléphone cet été, tu m'as très gentiment aidée sur un des chapitres de mon prochain livre. Et vraiment, je te le dis, je crois que je l'ai déjà dit, mais tu es, je trouve, l'autrice la plus claire.
Oh!
Ouais. Et moi, j'aspire à ce que mes livres soient aussi... Enfin, tu vois, tu apprends des choses... sans prendre la tête, sans créer des nœuds dans le cerveau, c'est d'une, enfin, on a envie d'acquiescer, tu vois, avec chacun de tes propos. Et donc, on a décalé plusieurs fois là l'interview d'aujourd'hui.
Oui, j'en suis désolée.
Non, mais aucun problème. Mais à chaque fois, je me disais, merde, j'aurais fini mon bouquin à ce moment-là, alors que j'aurais aimé avoir les réponses que tu vas nous partager. Mais il y a aucun problème. C'est quand même très utile. Mais je me suis vraiment demandé quel est toi ton processus, parce que c'est d'une telle richesse. Il y a des recherches historiques, il y a de la sociologie, il y a de la philosophie. Tu le disais, pour le thème à la philo, c'est parfois plusieurs années de travail. Je crois que c'est pareil pour
de
la
vérité,
tous tes livres,
tous,
en fait.
En moyenne, 4 ans.
C'est fou. Et alors, moi, j'ai une approche très différente où je m'immerge parce que, en fait, je me dis, il faut que je pense tout le temps au sujet pour pouvoir vraiment le décortiquer. Comment est-ce que toi, tu t'y prends à partir du moment où tu remarques qu'il y a cette obsession qui est telle que tu te dis, il faut que j'écrive un livre dessus? Quels sont les premiers jours de recherche et comment ensuite tu t'organises pour arriver au point final?
Oh, alors déjà, merci parce que tu m'as fait le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est celui de la clarté. Parce que c'est vraiment ma quête, la clarté, la limpidité. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, quand moi je lis des bouquins de philo, ça me tombe des... Enfin, je le dis franchement, hein, ça me tombe des mains parfois parce que c'est mal écrit et mal articulé. Et donc, il manque parfois des choses toutes bêtes comme des conjonctions de coordination, genre « donc », « par conséquent », « en outre »,« à contrario ». Et donc, tu sais où t'en es. Tu dis « ah bah attends, ça c'est une idée qui vient s'opposer à celle-là » ou « ça c'est une idée qui découle de celle-là ». Et donc ça, je trouve ça hyper intéressant pour suivre un raisonnement, que ça soit fluide et que ça soit coulant et que tu puisses avoir l'impression que tu lis un roman alors qu'en fait, tu lis de la philo. Donc ça, c'est vraiment mon obsession. Et donc, le processus créatif chez moi, il est extrêmement laborieux. Je le souhaite à personne parce que c'est solitaire et laborieux. C'est que je commence par faire pratiquement 2 années de ne faire que des lectures où pratiquement j'écris dans les marges des bouquins. Je fiche comme on faisait quand j'étais étudiante, mais des fiches très très détaillées et je mets des commentaires dans une autre couleur. Merci Word, j'adore parce que ça permet d'avoir plein de voilà. Moi j'ai tous mes dossiers, ils ont des couleurs, même des fonds de couleurs.
Ouais, c'est des stylos 4 couleurs. Ah, voilà. Du coup j'ai 8 couleurs parce que je prends les couleurs foncées, les couleurs claires.
Mais comment tu fais pour écrire avec un stylo? Tu écris avec un stylo? Ouais. J'ai vu ça sur une de tes photos. Ouais. J'étais fascinée. Moi je n'ai commencé à écrire que le jour où j'ai eu un ordinateur.
Ah ouais.
Parce que écrire à la main, j'y arrive pas du tout. Parce que je sais pas pourquoi, ça va pas assez vite. Donc du coup, j'écris très très mal, alors que je tape très très vite. J'écris très mal. Et donc après, c'est moche, c'est brouillon, j'arrive pas à me relire. Et puis surtout, après, c'est pas clair, en fait. Quand un truc est tapé, il est bien clair.
Non, moi, ce que j'aime pas quand c'est tapé, c'est que tu peux... Enfin, moi, ce que j'aime bien avec les feuilles, c'est que je peux écrire. Puis si jamais j'ai une idée sur un autre sujet, je prends une autre feuille. Puis après, je peux les mettre à côté pour comparer. Enfin, tu vois, il y a une espèce de gymnastique que je préfère. Et puis, en fait, juste les moi, j'ai toujours adoré écrire à la main. Je pense que si j'avais pas cette obsession de la couleur aussi, j'écrirais même au stylo plume parce que j'adore.
Mais moi,
j'aimerais bien taper à la main. Hein, à l'ordinateur, ce serait quand même plus pratique pour tout le monde. Mais
et tu vois,
j'ai perdu certaines feuilles et tout. C'est quand même un peu chiant. Du coup, je prends tout en photo.
C'est marrant. Alors que toi, on n'est pas de la même génération. Et c'est moi qui te dis ça et toi qui écris à la main. Alors que moi, écrire à la main, j'écris des notes, des petits brouillons comme ça, des post-it, des choses. Mais vraiment, l'ordinateur, c'est un deuxième moi. C'est mon ordinateur. Je me suis fait cambrioler il y a 2 ans. La première chose que je suis allée voir, c'est si mon ordinateur était là avant les bijoux, avant tout. L'ordinateur.
Il était là.
Parce que, ah oui. Ouais. Et l'ordinateur était là. Bah, faut dire qu'il, il était. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est trop lourd. Hein. En fait, après les flics m'ont dit ça s'embarque rarement un ordinateur, un portable, oui, mais un gros PC de bureau.
Ah oui, t'as un gros truc de bureau.
Faut quand même.
Mais moi j'ai un écran
deux fois grand comme moi.
D'accord.
Il faut. J'ai un fauteuil de gamer. Il faut que je sois à l'aise parce que j'y passe 5, 6, 7, 8 heures de suite, mais
ouais,
voilà.
Par jour, quoi.
Mais c'est mon deuxième moi, c'est mes cahiers, c'est mes... Je prends des notes et à un moment, tout est dans mon ordi, tous les bouquins sont fermés, c'est fini, il n'y a plus de livres, tout est dans l'ordi. Et donc là, toi, tu vois, tu as tes pages et tes dossiers, moi, c'est clac, clac, je clique. Et donc, pour un livre, je vais avoir, pour le rire, j'avais peut-être 50 fichiers avec des petits sujets. Tu vois, Dieu et le rire, la Renaissance, des sous-dossiers. Et puis ensuite, après, j'essaye de faire des rapprochements. Une fois que j'ai tout lu, tout emmagasiné, il y a une phase de réflexion pour faire le plan. Et en fait, le plan, c'est le plus dur, mais... J'ai compris pourquoi le plan, c'était si dur. Parce que le plan, c'est la réflexion. C'est-à-dire que le plan, c'est la philosophie. C'est-à-dire que la manière dont tu vas raconter ton affaire, dérouler, donc le plan, la structure, c'est l'idée, c'est l'argumentation. Donc en fait, il n'y a pas « je fais mon plan puis je rédige ». Non, le plan, c'est la réflexion pure. C'est-à-dire comment, en fait, je vais articuler cette idée avec celle-là qui me fait penser à celle-là, comment je fais le pont, et ben voilà, c'est ça, c'est l'idée. C'est l'idée philosophique. Donc, en fait, c'est normal que ça prenne du temps et c'est normal que ça prenne la tête. Bon, quand tu fais une dissert, enfin, les étudiants qui font des disserts, je ne sais pas si tu as un public de très jeunes, d'étudiants, là, tu penses que tu as des terminales qui t'écoutent ou...
Écoute, je pense qu'il y en a un peu. Manifestez-vous, écrivez-nous sur Insta. Et j'ai plus de personnes de plus de 20 ans que de moins de 20 ans.
Ouais, ok.
Voilà, on va le dire comme ça.
D'accord.
Mais je pense qu'il y en a quand même. Donc, dis-nous si tu peux partager des conseils.
Non, mais voilà, c'est ça. C'est que, non, j'allais leur dire que le plan, c'est vraiment l'étape la plus cruciale parce que la structure, c'est la réflexion, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est indissociable.
Ouais. Non, mais moi, je sais que quand je suis bloquée, c'est souvent que j'ai pas assez détaillé mon plan.
C'est ça.
Donc en vérité, vu que moi j'écris sur des temporalités beaucoup plus courtes, en fait, il me faut une première partie avec une sous-partie, avec chaque argument et même parfois le sous-argument. Et en fait, si j'ai ça, après c'est fluide. Mais si j'ai pas assez bien détaillé mon chapitre, par exemple, pour chaque chapitre même, après je fais... Souvent, j'ai 8 idées principales. Et en fait, c'est le fait de vraiment les détailler. Parce que si je détaille pas assez, je peux me retrouver bloquée, quoi.
Ouais, tout à fait. Moi, quand je travaillais sur le rire, au bout d'un moment, je me trouve devant une masse de documentation monumentale parce que j'ai étudié la philosophie du rire. Qu'est-ce qu'avaient dit les philosophes? Qu'est-ce qu'avait l'histoire du rire? Qu'est-ce qui fait rire à travers le temps? Les différentes manifestations, les significations du rire, toutes les fonctions. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à dire, bon, essaye de structurer. Et structurer, c'était découvrir, par exemple, les différentes fonctions. J'ai dit, il y a une fonction anxiolytique, il y a une fonction d'exclusion et d'inclusion, il y a une fonction de domination, il y a une fonction d'émancipation, il y a une fonction commerciale, il y a une fonction thérapeutique. Et en détaillant ces différentes fonctions et en les questionnant, le plan, il venait tout seul, en fait. C'était le plan de faire ces disserts. Et donc, c'est pareil pour les disserts de philo ou les étudiants, même dans d'autres matières. Dans toutes les sciences humaines, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut décomposer. Les problématiques sont énormes et il n'y a que la décomposition qui te fait avancer.
Autant je peux comprendre assez facilement d'où est venue l'obsession pour l'amour, même celle pour le féminisme parce que je la partage, mais je serais vraiment curieuse de savoir d'où est venue cette obsession pour le rire et à quel moment tu t'es dit « il faut que j'en fasse un bouquin ».
En fait, là encore, je vais partir d'une expérience personnelle, mais que tout le monde a vécue. Hein.
Ouais.
Moi, j'ai un souvenir d'un trauma quand j'étais en seconde. Je revenais des fameuses vacances chez ma grand-mère à Noël et j'avais peut-être un petit peu forcé sur le chocolat. Sur les truffes, je sais pas. Et donc, j'avais grossi en bref, quoi. Et donc, je rentre dans la classe comme ça. Et puis, il y a toute la bande de beaux gosses qui sont en rang, là. Et puis, je passe et là, je sens des gloussements. Et il y en a un qui balance « Bah, dis donc, elle t'a bien nourri, mamie. On dirait que vous êtes deux dans ton jean. » Et là, fou rire de toute sa bande de potes. Et moi, mortifiée. Et tu sais pas quoi répondre dans ces cas-là. Alors je lui dis c'est pas très drôle, hein.
C'est terrible ce genre de moment.
J'ai envie de pleurer. C'est vrai, t'as envie de disparaître, de mourir. Et il me dit ça va, un peu d'humour. Et là, j'aurais eu envie de lui dire, mais c'est pas de l'humour, mon gars. C'est du sarcasme. Ça n'a rien à voir. Et l'humour, oui, ce serait faire preuve d'humilité, parce que humour, c'est la même racine que... C'est humus, la terre. Donc, humilité, mais c'est aussi humiliation. Je dis, là, c'est pas de l'humour, c'est de l'humiliation. Donc, c'est pas la même chose. Mais évidemment, j'ai pas eu les moyens de lui répondre ça. Puis après, souvent, dans ma vie, j'ai eu assisté à des scènes où j'en étais la victime, la cible directe ou témoin, de trucs comme ça. Ça va, un peu d'humour. Mais t'as pas d'humour. Mais je vendais. C'était pour rire. Et moi, je me disais, il y a un truc là-dedans qui me gêne. C'est que oui, peut-être lui, ça le fait rire. Lui, il trouve ça drôle. Sa bande de potes, il trouve ça drôle. Mais moi, je suis mortifiée. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que le rire? Qu'est-ce que c'est que l'humour? Et puis, j'ai cette histoire d'inclusion-exclusion. C'est-à-dire que ça crée une connivence entre les rieurs. On rit avec, mais on rit contre. Donc, ça exclut la cible dont on rit. Et alors ça m'a énormément travaillé. D'abord parce que aussi j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui est très drôle. dont c'est le métier d'ailleurs. Enfin, il n'est pas humoriste, mais il écrit pour des humoristes. Il est super drôle. Donc, on rit énormément à la maison. Et il y a des vannes qui passent pas bien. Il y a des vannes qui passent très bien. Et puis, il y a des vannes, eh oh là
Y a-t-il une limite au rire ?
Et justement. Alors donc, c'était ça la question. C'était, en réalité, tu sais, tout à l'heure, on disait jusqu'où peut-on aller par amour ? J'ai envie de te dire, jusqu'où peut-on aller par humour ? Jusqu'où, à quel moment cette excuse d'humour de « oh, ça va, je vannais », à quelles conditions elle est recevable ? Et donc, en fait, c'est ça la question qui m'a mise en route. Alors, je crois avoir un peu trouvé... Enfin, ce qui est compliqué dans cette histoire du rire, c'est ça que j'ai appelé le paradoxe, c'est que pour que ce soit drôle, il faut que ça chatouille, il faut que ça dérange un peu, il faut que ce soit un peu transgressif, un peu subversif, ou un peu exagéré, un peu excessif. Enfin, il faut que ça te perturbe. Le rire, ça naît de l'incongruité. C'est un truc qui t'étonne, qui te surprend, sinon tu ris pas. Donc en fait, comment on fait ? Parce que souvent, ce fait d'aller trop loin, ça peut te gêner. Donc, il est là le paradoxe. C'est comment on fait ? Parce que quand on dit « peut-on rire de tout ?», bah, si on dit « oui, on peut rire de tout eh », bah, ça veut dire qu'on prend pas en cause la souffrance ou l'humiliation de la cible, comme moi quand j'en étais la cible. Mais en même temps, demander au rire de pas être inconvenant, d'être correct, gentil, etc., bah, ça fait des vannes pas drôles. Moi, je me souviens d'une vanne d'une dame qui me gardait quand j'étais petite. Et déjà, quand j'étais petite, je trouvais ça pas drôle. Elle me dit un jour, qu'est-ce que c'est qu'un rôti gazouillé? Alors, je lui dis, bah, je sais pas. Elle me fait, c'est un rôti cuit, 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 cuit. Tu vois. Et elle était morte de rire. Et là, je dis, bah, attends, c'est pas drôle, son truc. Enfin, même enfant, je trouvais ça déjà pas drôle. Parce que, en fait, ça n'avait rien de, c'était juste un petit jeu de mots, mais il y avait
pas de transgressif.
Il y avait pas de, ça chatouillait pas. Alors que les vannes que balançait mon frère aîné, qui étaient des vannes beaucoup plus, moqueuses, il était moi, mon père, surtout, était très moqueur, très, très, très. Moi, j'ai grandi avec cette culture de la moquerie, mais dont je sentais très bien qu'elle était à double tranchant. C'est-à-dire qu'on se moquait, enfin, à la maison, la moquerie, c'était presque le sujet de conversation. Enfin, c'était un sujet central. Enfin, c'était vraiment, ils étaient très moqueurs dans ma famille. Et donc, moi, j'ai grandi avec cet état d'esprit un peu, voilà. Donc, même moi, m'est arrivé de faire des vannes humiliantes aussi. Enfin, je veux dire,
c'est un conditionnement.
Mais j'en ai fait aussi des blagues reloues. J'en ai fait, je continue à en faire d'ailleurs, sans m'en rendre compte parfois. C'est-à-dire que la marge, elle est subtile. Donc c'est justement ce que j'ai essayé de décortiquer dans le livre, c'est quelles sont les conditions recevables pour l'excuse d'humour. C'est-à-dire à partir de quand, justement, on peut considérer que c'est de l'humour. Et donc pour moi, il y a au moins quatre questions qu'il faut se poser. Enfin, je pense que déjà, j'ai avancé l'idée d'un pacte humoristique. C'est-à-dire que c'est une relation à l'autre, l'humour. Donc il faut que s'installe une sorte de pacte humoristique. Et la base, une des bases de ce pacte, c'est l'innocuité. C'est-à-dire il faut pas que tu te sentes en danger ou humilié ou blessé personnellement. Typiquement, la vanne grossophobe dont j'avais été la victime. Sans être grosse en plus, c'est ça qui... Enfin, en plus de ça, c'est un autre sujet, les femmes, la ligne...
Mais oui, mais en plus, tu l'as brièvement dit, tu avais été victime de troubles alimentaires, voilà, donc c'était en plus le truc à pas dire.
C'est ça,
quoi.
C'est que j'étais déjà victime de troubles alimentaires... Et donc, ça m'a mortifiée. Et puis, moi qui déjà mangeais rien, à l'époque, pour être maigre, c'était à l'époque où il fallait vraiment être maigre, pas mince, maigre. Donc, déjà, je ne mangeais rien. Mais là, ce jour-là, j'ai carrément démarré une phase anorexique. C'est-à-dire que je mangeais carrément plus rien. C'est-à-dire que je suis passée à une pomme. Alors qu'avant, j'étais à une pomme et un fenouil. Il y a eu une époque où je mangeais 100 calories par jour. Je sais pas comment j'ai tenu d'ailleurs. Mais
comment t'en es sortie ?
Ouh, ah, ça a été long. Hein. Ah, ça a été très long. Ça a été très long. En fait, j'en suis sortie par la grossesse.
Ah oui.
Ouais.
Ah oui, des années.
Ouais. Ah oui, non mais mais 15 ans.
Ouais.
De l'âge de 15 ans à l'âge de ma première grossesse, à peu près 29. Obsession alimentaire. C'est un autre sujet, ça, mais c'est vrai que j'ai parlé des vannes grossophobes dans mon livre, parce que à côté des vannes sexistes, homophobes, islamophobes, judéophobes, etc., en fait, ça peut pas être de l'humour quand la cible est vulnérable. Je pense que le premier critère de ce pacte humoristique, c'est que la cible ne soit pas vulnérable et pas stigmatisée. C'est-à-dire un stigmate, c'est un stéréotype dégradant. C'est-à-dire parce que, par exemple, vanner, tu vois, par exemple, je pense qu'une blague contre les Suisses, c'est moins préjudiciable qu'une blague contre les Africains, contre les Noirs, contre les... parce que les Suisses ne sont pas stigmatisés. Donc, si tu blagues sur les, comme le fait David Castello-Lopez, que j'adore, mais il me fait beaucoup rire parce que je connais bien la Suisse et que je suis un peu Suisse. Bon, moi, honnêtement, quand ils vannent sur le chocolat, les montres et l'argent, ça leur porte pas préjudice aux Suisses. Parce que tu perpétues juste un stéréotype, mais perpétuer un stigmate. Le stigma, originellement, c'est la marque au fer rouge des esclaves. C'est que là, tu perpétues quelque chose de dégradant qui enferme les gens dans quelque chose qui, en fait, les déprécie, les dévalorise, les dévalue, les discrédite. Donc, la grossophobie, c'est un des aspects de ce rire de dégradation dont je parle beaucoup et qui m'obsède. En fait, ce qui est compliqué dans l'humour, c'est que c'est pas une affaire d'énoncer, c'est une affaire d'énonciation. C'est-à-dire qu'un même contenu comique... il peut être humoristique dans un cas et pas humoristique dans l'autre. Et ça dépend de 4 paramètres, donc je les ai détaillés. T'as dans quel contexte, qui parle, dans quel état d'esprit et qui est la cible et est-ce que cette cible est vulnérable. Et donc il faut poser ces 4 questions. Et là je pense que si, avec la combinatoire de ces 4 éléments, tu peux déterminer si un contenu, par exemple cette même vanne, il me l'aurait sorti alors que j'étais toute fluette ou trop fluette ou toute seule, pas avec son escorte de garçon, dans un autre contexte, etc. Elle aurait peut-être pas été perçue de manière aussi dévalorisante, tu vois. J'aurais peut-être pu dire, oui, ben là, c'est de l'humour. Si tu le vois sur une BD, ça peut être de l'humour. Il y a un contexte dans lequel un énoncé peut être de l'humoristique. Et c'est ça toute la difficulté de la question.
Ce qui m'interpelle, et c'est aussi, je trouve... comme ça que je l'ai ressenti en lisant Le paradoxe du rire, c'est qu'en fait, on se rend compte que c'est presque une science. En tout cas, il y a des paramètres, quoi, comme tu le dis très bien.
Ouais.
Mais est-ce que le propre du rire, c'est pas justement que ce n'est pas forcément rationnel ? Tu vois, je me dis, si jamais, avant de faire une blague, on doit réfléchir au contexte, à l'état d'esprit, à la cible, etc., ben en fait, c'est déjà, entre guillemets, trop tard pour faire la blague. Je me fais l'avocat du diable.
Tout à fait. Alors, plutôt que de parler de science, moi, je parlerais plutôt d'art. C'est-à-dire, pour moi, c'est un art. C'est-à-dire que c'est une combinatoire. Et effectivement, elle demande une certaine habileté, exactement comme un art. C'est-à-dire, ça se pratique, ça s'exerce. C'est aussi le fruit de différentes expériences, parce que tu peux voir aussi, tu cultives ton sens de l'humour au contact des humoristes, au contact des gens drôles, au contact des gens qui ne te font pas rire, justement, pour un rôti gazouillis, c'est pas drôle. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de transgression, il n'y a pas d'inconvenance, il n'y a pas de grossièreté, il n'y a rien, en fait. C'est juste un petit jeu de mots pour enfants. C'est un art de danser au bord du vide. C'est-à-dire que c'est toujours un peu sur la ligne de crête, tu vois, et t'as des exemples dans l'actualité de vannes qui sont un peu sensibles. Et c'est un art de le faire passer au bon moment, au bon endroit, sur la bonne antenne et tout ça. Alors, je dirais pas science, plus art. Donc, effectivement, dans l'art, il y a aussi un côté artisanal, c'est-à-dire un côté quelque chose dans lequel tu peux... t'améliorer, t'entraîner, t'exercer comme une poterie, comme une glaise que tu façonnes. Et effectivement, t'as des gens qui sont doués naturellement, comme les artistes. En réalité, t'as un gamin, il fait du piano superbement à 8 ans. T'en as d'autres qui ont cette espèce de sens de l'humour inné. Enfin, inné, je sais pas, parce que non, inné, je retire, parce que je pense pas que ce soit
être dû à une éducation, à une culture.
Il y a une socialisation. Alors c'est vrai que il y a l'environnement, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en ligne de compte, mais c'est vrai que ça fait partie de la socialisation aussi, l'humour, c'est-à-dire que t'apprends aussi, par exemple, les jeux de société, ils sont là pour t'apprendre la stratégie, ils sont là pour t'apprendre à défendre tes intérêts, pour t'apprendre à... etc. Et donc, s'il n'y avait pas l'amusement, les fous rires, etc., ça paraîtrait très cruel de désirer vraiment la malchance de ton adversaire, tu vois, de désirer, tu vois, au Monopoly, vas-y, t'es tombé sur mon hôtel rue de la Pelle, vas-y, paye, etc. Si on se marrait pas, ça serait perçu comme quelque chose de trop cruel. Donc, en fait, le rire, il a aussi une vocation de socialisation. Donc, c'est pour ça que c'est pas complètement inné, il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage aussi, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus doués pour ça que d'autres.
Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a une vraie considération de l'humour. Tu vois, on parlait de ton premier livre sur l'amour et celui-ci sur le rire, mais typique, souvent, il y a des adages qui disent que, en gros, un homme qui fait rire une femme, il a tout gagné. Comment ça se fait qu'il y ait qu'on octroie un tel poids à l'humour ?
Tu vois, c'est... Alors là, t'as deux questions. Alors, la question du genre, ouais, parce que là, tu m'as dit un homme qui va.
Oui, c'est vrai qu'on attend moins des femmes qu'elles soient drôles, bizarrement.
Alors, ça, c'est un point hyper intéressant que j'ai abordé dans mon livre. C'est le fait que le rire, c'est quelque chose de très genré, bizarrement. Hein. Le rire est très genré. Il faut se rappeler qu'au 19e siècle, une femme n'avait pas le droit d'assister à une. Enfin, une femme. Les femmes bien, comme on dit, respectables, ne pouvaient même pas assister à une comédie. Parce qu'il y avait quelque chose dans le rire des femmes qui heurtait trois prédicats de la féminité qui sont la beauté, parce que quand tu ris, tu déformes ton visage, tu fais couler ton maquillage, t'as des rides, etc. T'as la bouche ouverte, on voit les dents, c'est pas forcément toujours ce qu'on a de plus beau et régulier. Donc il y a la beauté, il y a la bienséance, parce que rire, c'est rire de. Il peut y avoir quelque chose d'obscène ou quelque chose de qui heurte les convenances, voilà. Et puis la bonté, la moralité, puisque la femme est supposée être vertueuse. Donc la beauté, la pudeur et la vertu, les trois choses, trois prédicats qui interdisent à la femme l'hilarité, en tout cas l'hilarité, ha ha ha, voilà. Et à l'inverse, c'est très valorisé chez l'homme depuis toujours. Il y a cette fanfaronnade, les hommes qui se mesurent les uns par rapport aux autres, ils se mesurent pas seulement en termes de performance sexuelle, mais en termes de rire, qui rit le plus fort, qui fait rire, etc. Et alors, il y a un truc que je trouve hyper intéressant, c'est que dans les attentes des hommes et des femmes, donc il y a une étude d'un neurobiologiste qui s'appelle Robert Provine, qui a montré, il a étudié plein d'annonces matrimoniales, et il a remarqué que les hommes demandaient une femme qui ait de l'humour au sens où elle se marre à leurs blagues, et que les femmes recherchaient un partenaire qui les fasse rire. Donc tu vois, comme culturellement, on est encore très conditionné par cette idée que c'est l'homme qui fait rire, parce que c'est actif de faire rire, et la femme est plus passive, donc elle peut être l'objet du rire, donc on peut rire d'elle, mais elle ne peut pas être sujet du rire, elle ne peut pas être celle qui fait rire.
C'est hyper intéressant, je vois des parallèles avec tous tes livres, parce que c'est toi aussi qui m'as ouvert les yeux sur cette passivité qu'on associe à la femme, qui est très liée à l'acte sexuel, où elle reçoit...
Ouais.
Alors que l'homme donne, entre guillemets, et que ça conditionne et sa place au foyer, parce que c'est un intérieur, alors que l'homme est un extérieur, donc c'est lui qui va à l'extérieur. Et je trouve que c'est pour ça, l'histoire est tellement liée derrière au poids des stéréotypes, du genre, enfin, il y a la philosophie même, qu'on gagnerait à mêler plus d'histoires, je trouve. Enfin, tu vois, on le mêle un peu à la philo, parce qu'il y a eu des philosophes à travers les époques, mais souvent... Il n'y a pas ces degrés d'explication que toi t'apportes qui sont finalement presque purement historiques, quoi.
Comme, mais complètement historiques. C'est-à-dire que je pense que pour comprendre l'amour ou le rire ou la condition des femmes et le féminin et le masculin, il faut voir comment ça s'est construit à travers le temps. C'est-à-dire que si tu veux faire une œuvre de déconstruction, c'est-à-dire justement la déconstruction, c'est déployer, déplier, dérouler, c'est en fait déconstruire, c'est pas détruire du tout. C'est comprendre comment ça a été construit à travers le temps, comment on a construit l'idée de l'amour. Donc il y a une construction culturelle. L'amour, c'est une construction culturelle. Et le rire, c'est une construction culturelle. Donc il y a des façons de rire, on rit pas la même chose et de la même façon à telle et telle époque, dans tel et tel milieu social, dans telle et telle aire géographique, etc. Donc il y a une construction culturelle et on peut pas comprendre, à mon avis, toutes ces questions si on n'a pas fait cet effort. Et par ailleurs, on ne peut pas reconstruire si on n'a pas déconstruit.
C'est vrai.
Voilà. Ouais. C'est-à-dire que déconstruire, tu vois, tu prends des Lego, tu ne détruis pas tes Lego. Enfin, je ne sais pas si tu joues au Lego, mais...
plus trop.
Plus trop, mais quand tu joues au Lego, tu ne tapes pas dessus, tu désarticules ton bateau et avec les mêmes pièces, tu construis une maison. Mmh. Et donc, tu reconstruis. Et moi, je trouve ça hyper important, le travail de déconstruction et justement le fait, comme tu dis, d'analyser un phénomène. Bah, typiquement, quand j'ai voulu m'interroger sur le féminin et le masculin, l'essence du masculin notamment, et bah, le fait que de découvrir que la masculinité n'avait pas toujours été pensée de la même manière à travers les époques, qu'il y avait eu des crises de la masculinité, etc. Mais ça éclaire énormément le présent. En fait, l'histoire, ça sert à éclairer le présent et on espère à éviter le retour des mêmes erreurs. Malheureusement, je constate que... ou alors les gens n'ont pas assez de connaissances historiques, ou alors ils n'ont pas compris l'intérêt de l'histoire, mais je suis très étonnée, moi, qu'on reproduise, qu'on reparte. Comment ça se fait que les idées d'extrême droite, par exemple, dont on a vu le potentiel mortifère et le danger, que des jeunes aujourd'hui se précipitent dans ces idéaux-là d'extrême droite, pour moi, c'est qu'ils n'ont pas compris le sens de l'histoire, ou ils ne la connaissent pas, ou ils n'ont pas compris que l'histoire servait à nous ouvrir les yeux. Attention, regardez où ça mène ce type de discours. C'est ça qu'il faut. C'est à ça que sert l'histoire.
En fait, le problème, en tout cas, comment je le perçois, et c'est là où la philosophie est à mes yeux une vraie réponse, c'est que les gens préfèrent trouver des réponses que se poser des questions.
Ah ben, tout à fait.
Et en fait, comme les extrêmes apportent des promesses, mais qui, enfin, quand tu creuses deux minutes, hein, sont vraiment pas du tout viables, mais que c'est rassurant, là aussi, on en revient à ce qu'on disait sur les certitudes, plutôt que de se dire, ok, il ou elle promet ça, pourquoi ? Et comment elle va le mettre en œuvre ? Et est-ce que vraiment il ou elle va réussir ? Et c'est là où, enfin, ça m'attriste, quoi, mais je me dis, bon, à part faire de la philo encore plus jeune, je sais pas tellement quelles sont nos options, quoi.
Bah oui, bah on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur le fait que la radicalité, ça rassure. Mmh. Le ventre mou, c'est l'angoisse, en fait. Une idéologie, par définition, c'est la logique d'une seule idée. Donc, quand tu as une idéologie, elle est bien rassurante, elle est bien compacte, elle est bien concrète. Il y a A, B, C, voilà. Donc, toi, tu suis, c'est comme les gens qui disent qu'ils sont, par exemple, tous les gens qui adorent la discipline, qui adorent l'armée, qui se sentent... Parce que c'est hyper sécurisant, c'est hyper structurant de savoir le matin que toute ta vie, ta journée, elle va être quadrillée, qu'il y a un chef et c'est lui, puis au-dessus de ce chef, il y a ce chef. Donc toute la hiérarchie, tout est bien dessiné, donc tout est clair, tout fait sens, mais il n'y a plus d'espace pour la gamberge. Alors, et justement, c'est l'espace de gamberge, la philo. C'est justement l'espace qui te reste. Donc tu as ce que ça rassure et cette discipline et l'idéologie, le fait que ce soit clos, et puis t'as ceux que ça oppresse. Enfin, moi, je fais partie de ceux que ça oppresse. Mais j'ai bien compris aussi que le fait de refuser ça me plongeait dans des angoisses et dans des abîmes existentiels, parce que la liberté, c'est même, je reprends le même texte de Sartre, en fait, c'est un vertige, la liberté. C'est qu'il n'y a rien de plus angoissant. Cette angoisse, qui était pour moi un concept un peu abstrait, parce que je l'avais lu, l'angoisse de la liberté chez Sartre, et ben, le jour où la première fois que je suis allée en prison, pas en tant que détenue, mais
j'ai quelque chose à nous avouer.
En tant que visiteuse, donc pour cette, j'avais rendez-vous avec l'assistante sociale pour qu'elle m'explique un peu le fonctionnement de la prison, etc., ce que c'était que les détenus, ce qu'il fallait éviter, pas éviter, etc. Et c'est en sortant, vraiment en récupérant mes affaires que tu laisses dans un casier, en passant tous les portiques, en passant tout le sas, et en étant dehors, je suis allée vers ma voiture, j'avais ton âge, exactement. Et je me suis dit, en fait, je peux partir à gauche, je peux partir à droite. Si je veux, je peux prendre ma voiture, je peux aller partir à Marseille, là, si je veux. En fait, rien ne m'attache. Et tout à coup, j'ai pris conscience du prix que ça avait, parce qu'elles, elles allaient retourner dans leurs petites cellules microscopiques, le prix que ça avait, mais aussi du vertige, de l'angoisse que ça représentait. Parce que je me disais, mais finalement, je rentre chez moi, mais c'est nul de rentrer chez soi, en fait. Et mais qu'est-ce que je pourrais faire ? En fait, où je pourrais aller ? Comment je pourrais profiter de mon temps ? Et là, c'est assez angoissant. Alors qu'effectivement, tu peux te dire, bah, à l'armée ou quand tu es dans un pensionnat, tu ne te poses plus de questions. Et en fait, tu as ceux qui n'aiment pas se poser des questions parce que ça met trop de vertige. Et puis, tu as ceux et celles qui assument le fait que se poser des questions, et tu en fais partie, Louise, je le sais, je le vois dans tes yeux, je le vois dans tes podcasts, tu fais partie de celles qui sont sans repos complet. Je te sens sans repos.
Oui, hein. C'est vrai. Oui.
Sans repos parce que assaillie d'une multitude de questions, mais je pense que ça, c'est ce qui fait ta grandeur. C'est peut-être ce qui t'angoisse aujourd'hui. C'est peut-être que ça t'angoisse, tous ces questionnements, parce que t'as l'impression que tu voudrais pouvoir te raccrocher à quelque chose qui te rassure. Mais en fait, c'est ta richesse et c'est ta force parce que c'est ta dynamique. Et ta dynamique, c'est le questionnement. Et en fait, chacun doit se dire, c'est quoi ma dynamique? Si ta dynamique personnelle, c'est d'être rassuré dans un cadre rassurant, parce que du coup, quand t'es rassuré et stabilisé quelque part, eh ben, c'est là que tu peux déployer ta créativité complète, parce que justement, t'es enraciné, et que l'enracinement d'un arbre, c'est ce qui permet que les feuilles, après, partent toutes les branches, partent dans toutes les directions avec le vent, mais tu restes bien enraciné. Donc, t'as ceux qui préfèrent ça, celles et ceux qui préfèrent ça. Et puis, t'as celles et ceux que l'enracinement angoisse et paralyse, mais à ce moment-là, ils doivent prendre le risque de l'indétermination. Le risque de l'indécision, le risque de l'aventure, le risque de l'expérience nouvelle. Et donc, c'est angoissant, mais si c'est ta route, Louise, reste-y. Parce que du coup, c'est ça qui fait que tu fais, c'est pour ça que tu fais des podcasts. Parce que tu cherches. Le jour où tu arrêtes de te poser des questions, toutes les questions qui te hantent, c'est fini. Tu raccroches ton micro et ça, tu restes chez toi. Donc, si tu as besoin d'aller demander à des philosophes, à des sociologues, à des influenceuses, à des scientifiques, etc., qu'est-ce qu'ils pensent du sens de la vie, c'est que tu voudrais bien qu'on t'aide à le trouver. Mais d'abord, un, personne ne détient la vérité, ça, il faut que tu le saches. C'est-à-dire que tout le monde fait semblant, adopte une posture. Parce qu'il y a aussi beaucoup la posture. Moi, je pourrais te la jouer, oui, je suis sage, j'ai trouvé la philosophie au fond de moi. Non, pas du tout. Je suis aussi torturée que toi. Hein. Donc, je me pose 1000 questions et le jour où je ne m'en pose plus, j'arrête d'écrire. C'est pareil. Mais je pense qu'il faut emprunter la posture de « je suis au-dessus de ça » parce que ça rassure et puis parce que ça... En tant que prof, par exemple, c'est la posture que j'adopte. Je ne suis pas la même face à toi que face à mes élèves, que face à des auditeurs dans une conférence. Je ne suis pas le même personnage. Et en fait, on est tous un peu des caméléons.
Et là, tu es quel personnage ? Et on joue.
Alors là, je pense que je suis assez moi-même. Pas complètement, parce qu'il y a un micro, il y a une caméra, il y a la lumière, et puis parce que c'est toi. Et puis c'est intimidant de savoir qu'on est écouté aussi. Donc je ne peux pas te dire que je suis à 100% moi-même. Mais je suis dans une forme de sincérité. Voilà. De sincérité avec... une intention pédagogique, ça va être prétentieux, mais utilitaire pour tes auditrices, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas perdu leur temps s'ils m'ont écouté. Voilà. Ça, c'est quand même un peu aussi mon obsession. C'est non pas mon propre temps, mais que les autres n'aient pas perdu leur temps à me lire ou à m'écouter. Voilà.
Comment tu gères tes angoisses ?
Alors moi, j'adore marcher. J'habite maintenant à la campagne. Je connais rien de mieux que mettre mes grosses chaussures de marche et partir dans la forêt. Il m'arrive de crier toute seule dans la forêt.
Générateur.
Je défoule. Ouais. Je défoule. En fait, il y a les angoisses existentielles, donc qui peuvent trouver un remède dans la réflexion, dans la lecture, etc. Et puis, il y a les accidents de la vie contre lesquels tu peux rien. Et tu vois, j'ai demandé à ma fille avant de venir... qui t'écoute et qui t'aime beaucoup. Je lui dis, si ça vient dans la conversation, les embûches de la vie, etc., est-ce que ça te gêne que je parle de ce qui t'est arrivé ? Et elle m'a dit, non, au contraire, maman, tu peux le dire parce que maintenant, j'en fais une arme, j'en fais une force. Mais il y a un an, je t'aurais pas dit ça. Mais ma fille de 22 ans a eu un cancer, en fait. Un truc qui nous est tombé dessus. Et encore une fois, non seulement elle m'a autorisée à en parler, mais elle m'a dit, mais parle-en parce que ça peut être utile. Si des gens qui sont passés par là à l'âge de 22 ans, et des mamans aussi, parce que, enfin, maman ou papa, hein, ou grande sœur, parce que toute la famille est affectée dans un truc comme ça, et sa sœur et ses frères et sœurs ont été très, très affectés. Donc là, ce type d'angoisse-là, c'est pas des angoisses auxquelles tu peux remédier ni par la philosophie, ni par... Donc, j'avais pas envie de me bourrer de tranquillisants. Donc, j'allais marcher dans la forêt, crier dans la forêt. Et surtout, ce qui m'apaisait, c'était d'être avec elle, en fait, le plus possible. Et en fait, elle est maintenant non seulement guérie, mais c'est une guerrière que j'admire énormément. Enfin, vraiment, je suis très, très admirative de ma fille. Parce que maintenant, elle a fait de ce qui lui est arrivé, elle a touché du doigt ce que c'était que la détresse, le malheur, et elle a décidé de consacrer sa vie aux autres, à des causes. Donc là, elle s'occupe de migrants, à la halte humanitaire, alors qu'elle est encore un peu, enfin, je veux dire, on pourrait se dire, elle est fragile. Non, mais ben non. Elle, sa force, elle la puise dans le fait qu'elle aide. Donc elle aide des jeunes, des mineurs en recours, en procédure de recours. Donc ils sont à la rue. Là, donc elle fait des maraudes, elle apporte des vêtements, etc. Je ne sais pas si elle aurait fait ça, si ça lui était pas arrivé. Je ne sais pas, peut-être. Hein. Elle a toujours eu une fibre très généreuse, mais voilà. Donc comme quoi, parfois, les angoisses, au bout de l'angoisse, il peut y avoir une force. C'est-à-dire que moi aussi, ça m'a rendue beaucoup plus forte, beaucoup plus sereine, paradoxalement. Je pense que c'est un peu comme dans tous les traumas, en fait. Hein. T'as la phase sidération où tu comprends pas ce qui t'arrive et où t'es complètement bloqué, paralysé, tu peux plus avancer. Voilà. Et après, t'as la phase, une fois qu'elle a été guérie, t'as une phase post-traumatique d'angoisse. Alors là, c'est une angoisse complètement irrationnelle. Tout angoisse, tout. Tu prends ta voiture, t'es angoissé, tout angoissé. Tout. En fait, tu prends conscience que c'est une roulette russe et que le malheur peut arriver à n'importe quel moment. Non, mais elle était en super santé, ma fille. C'était rayonnante de santé. 22 ans, elle avait jamais eu de problème de santé. Et tout à coup, elle a un cancer. Tu vois, du sang. Le truc, vraiment. Et elle est gravement malade. Donc, tu te dis, ça peut arriver. Eh bien, t'as deux façons de voir le truc. Ou bien, tu rentres dans une angoisse qui te tenaille et dont tu te sors pas. Ou alors, si tu t'en sors, ça te donne une force et t'es invincible, en fait. Parce que tout te paraît bénin à côté de ça. Tout. Mais vraiment, ouais. Tout. Tu te fous de tout. Et donc ça, c'est une force aussi. Tu me dis, c'est quoi tes objectifs? Alors, je t'ai pas répondu ça parce que c'est... Mais moi, mon objectif, c'est que mes enfants aillent bien. Voilà. Ça paraît peut-être un peu terre à terre de dire ça, mais voilà, c'est mon objectif. Premier, ouais. C'est qu'elle aille bien. Donc, qu'elles aillent bien. Qu'ils aillent bien. Parce que, moi aussi, les fils de mon mari dans le tas. Voilà.
Bah, merci du partage.
Non, mais
En fait, ça permet vraiment, je trouve, et je suis contente que tu nous aies partagé cet objectif, parce que ça permet de remettre les idées en place aussi.
Ouais.
Tu vois, dans un monde où on se compare, on cherche toujours plus, plus. En fait, c'est quand on perd qui est...
Ouais.
Voilà, le plus essentiel et qu'on avait pris pour acquis, qu'on se rend compte qu'on courait derrière quelque chose qui n'en valait pas la peine.
Ouais, complètement.
C'est hyper inspirant de savoir qu'elle, aujourd'hui, elle en fait cette force, qu'elle va aider un nombre de personnes incalculables, que voilà, peut-être les personnes qui ont écouté son histoire seront aussi inspirées. Quoi.
Et puis alors surtout, ça la rend extrêmement heureuse, mais c'est un bonheur. C'est-à-dire que l'autre jour, on a fait les placards pour récupérer des doudounes, des manteaux, des machins, parce qu'elle m'a dit, maman, il y a des gamins, ils n'ont que leur t-shirt sur le dos, parce que ils ont traversé la Méditerranée, ils sont arrivés comme ça, tout à coup l'hiver arrive, d'abord ils n'ont jamais vécu des températures comme ça, ils sont sous les ponts, dans les tentes, comme ça, et ils n'ont pas même de manteau ou de polaire. Donc on a tous dans nos caves ou dans nos placards des vêtements. Mais donc moi la première. Donc on a fait les placards et elle est arrivée à l'halte humanitaire, elle a distribué ses manteaux. Donc elle a fait des photos. Donc t'as des gamins tout à coup, ils ont un manteau. Putain, un manteau c'est une maison. Hein. C'est-à-dire que tout à coup, t'as des poches. Tu peux mettre tes papiers. En sécurité, t'as tes papiers qui... C'est des trucs auxquels on pense pas. Mais un gamin qui est en sweatshirt, il sait pas où mettre ses affaires. Tout à coup, avec une belle parka, il avait des poches à l'intérieur, des poches à l'extérieur. Il était là, il ouvrait, il refermait, il était sa capuche. C'est un manteau, c'est quelque part une maison.
Pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient donner leurs vêtements,
oui.
Est-ce que si je mets le lien vers le site
bien
de l'Halte Humanitaire, on
bien
peut
sûr,
le déposer?
Bien sûr.
Parce que je sais qu'il y a cette inquiétude parfois de pas savoir vraiment ce qu'il advient de nos vêtements. On a peur, avec les documentaires qui sont sortis, parfois on donne personnes et puis en fait ils sont détruits, etc. Donc là, si au moins on est sûr que ça va aider concrètement.
Le jour même, ouais. La parka, moi j'ai déposé la parka, le soir même elle m'a envoyé une photo d'un gamin avec la parka. Okay. Donc à la lutte humanitaire, c'est la mairie du 2e arrondissement, c'est juste en face du Louvre, c'est au métro Louvre-Rivoli.
Okay.
C'est à deux pas du métro, ouais. Louvre. Oui. On peut aller déposer des vêtements.
Je mettrai ça dans les notes.
Alors, essentiellement pour les hommes, elle s'occupe, mais je pense que ça, tu peux aussi mettre des vêtements de femme.
J'ai quelques dernières questions pour toi, Olivia.
Ouais.
Si tu avais une ressource, ça peut être un livre ou un film ou un documentaire qui t'a marqué, qui t'a touché et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent.
Ah, oh là là, il y en a tellement.
Ouais.
Dernièrement, j'ai lu Triste Tigre de Nej Sino. Vraiment qui m'a donné une bonne petite claque. Je trouve que c'est hyper intéressant la manière dont elle aborde la question de l'inceste, parce que c'est, comme elle dit, une autofiction narrative, c'est-à-dire que c'est à la fois un récit de ce qu'elle a vécu et en même temps une mise en perspective avec des lectures. Et par exemple, j'ai été fascinée par la manière dont elle a déconstruit Lolita de Nabokov. C'est hyper intéressant ce qu'elle dit, parce qu'en réalité, maintenant, quand tu dis Lolita, tout le monde s'imagine, depuis le film de Kubrick, une petite allumeuse de 13 ans, un peu provocatrice, etc. Et en réalité, elle rappelle très justement que Lolita avait 14 ans, que dans le livre lui-même, d'ailleurs, Humbert, son incesteur, dit qu'elle en est malheureuse, donc que c'est pas elle qui provoque ça, etc. Et elle revient sur le fait que y a pas de consentement à 14 ans, à une histoire, quelle qu'elle soit. Je trouve qu'en ce moment, ça résonne beaucoup avec l'affaire de Judith Godrèche, Anouk Grimbert, Vanessa Springora, donc toutes ces femmes qui démystifie l'histoire de la grande passion vécue par la jeune fille de 14 ans qui est être soi-disant très excitée par ce rapport, etc. Donc ça met vraiment en lumière les histoires les affaires d'emprise, de manipulation de la jeunesse, d'impuissance, le rapport de pouvoir qu'il y a. Donc c'est, et en plus c'est dans une langue vraiment magnifique, très accessible, et encore une fois, moi qui adore la limpidité, la clarté, elle, c'est pareil, ça coule, c'est... Moi, en plus, je l'ai lu en audio, et c'était très bien lu. Ouais, j'adore lire en audio maintenant.
J'ai grave du mal, et je comprends pas pourquoi, parce que j'adore les podcasts.
Je suis tellement plus moderne que toi, Louise.
Ouais, là, c'est définitivement, là, ouais. Je vais faire un stage, hein.
Alors, ouais, bah viens chez moi, tu vas voir, je suis hyper high-tech. Non, en fait, je lis en audio beaucoup, parce que comme je lis énormément déjà sur écran, au bout d'un moment, on peut pas passer sa vie avec des caractères d'imprimerie.
Ah bah oui.
Et j'ai envie de continuer à entendre des gens qui trucs qui m'intéressent. Mmh. Donc c'est, en fait, c'est par les podcasts que je suis arrivée au livre audio.
Ouais, ouais. Moi j'ai essayé. Après, je pense que c'est peut-être qu'il y a pas encore assez de choix. En fait, je suis très difficile sur les voix.
Ah oui, ça, c'est vrai que ça peut.
Et souvent, c'est souvent des livres américains que j'ai envie d'entendre, ouais. Mais il y a que les traductions françaises, et ouais. C'est une catastrophe.
Ouais, parfois c'est pas bien lu, ouais.
Je décroche complètement. Mais en tout cas, je note cette recommandation.
Ben, Chino, c'est elle, ouais, qui lit.
Ah bah ouais, super.
C'est elle qui
donc
lit.
Ça offre
donc,
une proximité.
Il y a une vérité, dans son rythme, dans son émotion. Honnêtement, en audio, ça, c'est encore plus parler. Elle te parle dans l'oreille, en fait. Elle te raconte son histoire dans ton oreille.
Et alors justement, ouais, si quelqu'un pouvait te parler, si quelqu'un pouvait venir à ce micro,
ouais,
qui est-ce que tu aimerais entendre?
À part Dieu, s'il existe, moi je crois que j'aimerais bien avoir quelqu'un que je déteste en face de moi pour essayer de comprendre. Voilà, j'aimerais avoir Trump en face de moi, par exemple. Okay. Quelqu'un dont je ne comprends pas les présupposés et les aboutissants. Je comprends pas comment il pense. Donc ça me fascinerait de discuter avec quelqu'un qui m'est totalement étranger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule idée, je pense, que je partage ou qu'on est en commun. Donc moi, c'est ça qui m'intéresserait, c'est de découvrir comment est-ce qu'on peut être facho aujourd'hui, en 2024, après ce qu'on sait sur le fascisme. Ça me fascine. Et comment ce type à Trump risque de gagner les élections?
Encore, c'est ça le pire.
Les regagner. Enfin,
déjà une fois, c'était surprenant, mais deux, si c'est le cas.
Et après l'attaque du Capitole, ouais, après avoir démolit les institutions, démolit la démocratie, un programme de vengeance, complètement vide d'arguments. Voilà, j'aimerais l'avoir en face de moi, ça ne se produira vraisemblablement pas, mais l'avoir en face de moi, tout seul, pas avec tous ses conseillers, etc. Et sans oreillette, pour qu'on puisse pas lui dicter ses réponses. Mmh. Parce que, en fait, moi, je suis fascinée par un type qui est à la fois, ça c'est vraiment une chose que j'arrive pas à m'expliquer, comment on peut être à la fois très malin, je dis pas intelligent, très malin et très con, très très con.
Ouais.
Et donc j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un qui est à la fois très intelligent et très con.
Je pense que c'est un excès de confiance en soi.
Oui, c'est pas,
tu vois,
c'est bien possible.
Propre au genre masculin. Enfin, en tout cas, c'est, je l'observe particulièrement.
Tout à fait.
Des mecs qui du coup se sentent, ils se croient permis de tout dire.
Oui.
Dans, parce qu'il se croit supérieur.
Oui.
Mais bon, écoute, voilà. À l'occasion, je te dirai si on arrive à la voir.
Si tu as un jour Trump de passage à Paris,
je t'appelle.
Et que tu peux m'aménager un petit rendez-vous en tête à tête, je vais lui dire pourquoi je le trouve grotesque.
Et la dernière question, tu la connais déjà, on en a parlé tout à l'heure. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ?
Eh ben, tu vois, en fait, j'ai envie de reparler de ma fille. J'ai déjà pas mal parlé de moi. Et puis, je t'ai dit que ce que j'avais prévu de te répondre à cette question, c'était attention au regard d'autrui, attention aux injonctions. Ça, donc, je l'ai déjà dit. Mais justement, ma fille, elle a subi donc ce traumatisme. Elle en a fait une force. Et elle a aussi subi un gros échec. Et ensemble, on a essayé de décortiquer cet échec, qui était un échec. Alors que elle avait un parcours d'excellence dans sa scolarité. Je pense que ses problèmes de santé, etc., ont fait qu'elle a raté un examen. C'était la première fois qu'elle le ratait. Donc, ça a changé sa destinée, hein. En fait, elle a raté l'examen du barreau. Et en fait, cet échec, elle s'est pas donné tous les moyens. Parce que sinon, elle avait été malade. Elle s'est bien battue pour eux. Mais, elle a raté, je pense, parce qu'elle ne voulait pas vraiment être avocate. Et elle a fait de cet échec. Donc, je lui ai dit, il faut lire... ah tiens, ça, c'est utile, Charles Pépin.
Ah oui.
Les vertus de l'échec.
Je
d'ailleurs,
vous invite
tu
à
l'as
écouter.
Reçu.
Je l'ai reçu deux fois.
Super,
voilà,
si intéressant,
écouté,
Charles Pépin. Ouais. Et les vertus de l'échec, c'est... voilà. Ensemble, on a dit, en fait, ce n'est pas un échec, c'est un signe que ce n'était pas ta voie. Parce que, en fait, c'est un métier qu'elle ne voulait pas vraiment faire, mais qu'elle a fait... Parce qu'il y avait une pression normative, ses copains qui faisaient ça, et puis voilà, elle avait une espèce de représentation fantasmatique de ce que c'était que le métier d'avocat. Et puis elle a fait un stage, elle s'est rendue compte que ça lui plaisait pas du tout, et que en fait elle avait envie de travailler dans l'associatif. Auprès, donc sa passion, c'est la question des exilés, c'est vraiment sa passion. Et donc elle s'est réorientée et elle a fait de cet échec une chance. Et une autre de mes filles a eu exactement le même parcours. C'est-à-dire, c'est par un échec qu'elle s'est dit, en fait, non, c'est pas un échec, c'est une opportunité d'essayer autre chose. Et ma fille aussi a eu un échec professionnel et ça lui a permis de réaliser que c'était pas du tout sa voie et elle s'est réorientée dans quelque chose de complètement différent. Donc moi, si j'ai envie, si ce sont des jeunes qui écoutent, je voudrais leur dire que parfois, un échec, ce n'est pas vraiment un échec, c'est que ce n'était pas ta voie. Et qu'il faut en chercher une autre, et que c'est l'occasion de se reposer les bonnes questions, et que c'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Donc un échec, ça permet de te redéfinir, et ça permet de relancer, et que un malheur aussi peut te donner une foi dans le bonheur que tu ne soupçonnais pas, et peut te rendre de nouveau plein d'espoir, te redonner confiance dans le mot espoir, alors que un an avant, c'était le désespoir et la nuit. Et je pense que vraiment, c'est important de se dire, il y a toujours un arc-en-ciel. Ça paraît un peu cliché de dire ça, mais je pense que l'époque est hyper anxiogène. Je pense que parmi tes auditeurices, il y en a qui sont en dépression, il y en a qui sont en anxiété chronique, il y en a qui sont sous antidépresseurs et sous anxiolytiques à moins de 30 ans. Je le comprends, je trouve ça très triste. Je voudrais vraiment pouvoir leur dire, c'est parfois parce qu'une situation est désespérée, désespérante, qu'elle va nous apporter quelque chose de positif. C'est difficile à croire, hein, mais en fait, pour moi, c'est vraiment le seul message philosophique auquel je crois vraiment. Il n'y a pas de vérité, sauf celle que tu vas trouver dans l'adversité. Quand tu vas te confronter à ton échec, à ta douleur, à ta maladie, à la mort d'un proche, à la vraie adversité, que tu vas trouver le sens de ta vie.
Merci, merci Olivia. Franchement, merci, c'est Louisa. Hyper inspirant. Pour les personnes qui nous écoutent, qui maintenant meurent d'envie de découvrir tes livres, notamment ton dernier livre, Le paradoxe du rire, que je mettrai dans les notes, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ?
Non, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. C'est peut-être un peu dommage d'ailleurs. Je crois que je vais devoir m'y mettre.
T'as du potentiel.
Mais tôt ou tard, j'y passerai parce que tout le monde me dit que c'est plus possible en 2024 de ne pas être sur les réseaux. Et c'est vrai parce que quand les gens me cherchent, ils ne me trouvent pas. Donc non, mon livre est sorti aux éditions Segers, donc vous me retrouvez dans les librairies ou sur Internet, mais non.
Si on veut t'écrire, est-ce que je peux laisser un mail ou
Alors, bien sûr, il s'adresse à ma maison d'édition, donc Segers. J'ai un attaché de presse charmant qui s'appelle Guillaume Périoux. Donc, s'ils veulent prendre contact avec moi, ils prennent contact avec Guillaume aux éditions Segers. Ils seront super bien reçus, j'espère. Voilà, non, mais c'est vrai que tu vois, là, je ne sais pas où rediriger à part la lecture de mes livres.
Mais c'est déjà pas mal. Voilà. Et ça vaut le coup.
Et donc, voilà.
Je mettrai tout ça dans les notes.
Merci beaucoup, Louisa.
Merci, Olivia, vraiment.
Merci. Merci à toi. C'était super.
Merci au vrai d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story, @inpowerpodcast et @mybetterself. Et je partagerai tout ça à Olivia, qui n'a pas encore de réseaux sociaux. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 350 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même, et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.